Est-ce qu'il y a un pad pour le compte rendu? Pas la moindre idée. Ça vient. La réponse, c'est pas encore.
Bon, ceci dit, moi j'ai déjà une question. La question fibre optique m'intéresse beaucoup. Est-ce que FDN va s'interfacer avec Numéricable?
C'est une bonne question. Joël, tu viens jouer avec nous? Viens. Ouais, on va faire micro commun, on va se débrouiller. Non, mais je pense qu'on va parler fibre optique pas mal, parce que je suis certain que ça intéresse pas mal de gens et qu'ils n'osent pas le dire. Donc pour les gens sur Internet qui n'entendaient pas, c'était Benjamin Sontag qui disait qu'il faut que nous reprenions les questions au micro. Voilà, comme ça la boucle est bouclée. Est-ce qu'on va s'interfacer avec Numéricable? Pas la moindre idée. Si on pouvait s'interfacer avec quelqu'un qui fasse de la vraie fibre optique au lieu d'en faire de la fausse, ce serait pas pire quand même. Parce que eux, ils font quand même plutôt du coax. Et si un jour on pouvait s'interfacer avec quelqu'un, ça pourrait être avec Numéricable, parce que on a encore quelques bons contacts là-bas. J'ai travaillé là-bas il y a quelques années et je suis pas fâché avec les gens, donc ce serait pas totalement débile. Juste peu plausible pour le moment. En fait, la vraie question, c'est comment se passe le déploiement en fibre optique à peu près partout en France, sauf à Paris, parce qu'à Paris, c'est pas intéressant. À Paris, le marché est déjà plié. Ce sont les deux ou trois gros opérateurs privés qui vont poser leur réseau, qui vont se le vendre entre eux selon des conditions qu'ils ont définies et qui vont le vendre aux autres selon des conditions qui font que personne ne pourra en acheter. C'est très facile, hein, de faire des conditions comme ça. Il suffit de dire qu'il y a 35 000 euros de mise en place du contrat, puis hop, il n'y a plus personne. Il suffit de dire qu'il y a un minimum de commandes de 5 000 lignes, et comme ça personne peut rentrer. Enfin, voilà, c'est très très facile de faire un contrat qui évince tout le monde, et ils vont le faire non discriminatoire, hein, ils vont évincer tout le monde de la même façon. Donc la question devient intéressante quand on s'intéresse à toutes les autres villes sauf Paris. Et en fait à toutes les régions où la fibre optique va être déployée en partie sur des fonds publics. Ce qui n'est pas le cas à Paris. Partout où la puissance publique intervient pour financer, elle peut intervenir pour fixer ses règles. Théoriquement, la loi dit que quand le réseau est financé par la puissance publique, il doit être disponible dans les mêmes conditions à tous les opérateurs. Et donc après, tout le jeu est de faire en sorte que les conditions en question soient compatibles avec des tout petits FAI associatifs, ce qui permet une vie locale. Et pour le coup, dans les gens qui poussent à la roue pour que ça aille dans ce sens-là, il y a Joël qui fait beaucoup de boulot. On donne pas ton pédigré aux gens, si. Si. Ancien directeur du haut et très haut débit à l'ARCEP, membre de l'Institut Mines-Télécom, t'as plein d'autres trucs. T'étais au moins grand chef à deux plumes chez France Télécom avant. Voilà. Je connais pas le pédigré par cœur, mais voilà. Et un des piliers d'un truc qui s'appelle le RFC, le référentiel fibre commun.
Peut-être tu as parlé de réseau public, de réseau privé. Peut-être faire un petit point sur les endroits où on se trouve dans les cas où ça sera déployé par du privé, ceux où il y a des projets publics existants et ceux où les privés ont considéré que c'était pas rentable. Un peu démêler tout ce tas de nœuds pour savoir où, en fonction du territoire, comment ça se passe et...
C'est un sacré tas de nœuds, effectivement. Donc globalement, donc Joël Maud de l'Institut Mines Télécom. Donc pour démêler un peu le tas de nœuds, il y a deux zones. Il y a les zones, comme a dit Benjamin, les zones très denses. Il n'y a pas de micro. 148 communes, zones denses, à peu près 20% du territoire. Où là, venir, notamment quand on est associatif, c'est pas facile. C'est ce qu'a dit Benjamin, des conditions quand même très difficiles pour entrer. Par contre, il y a 80% du territoire qui sont en dehors des zones très denses, où là, ce sera a priori plus facile. Et ce territoire-là, il se découpe en zones où les opérateurs privés ont donné leur intention. Ça reste pour l'instant une intention de venir. C'est ce qu'on appelle les zones AMI, zones d'intention d'investissement. Si on écoute Orange, ça va représenter 58% des lignes, 58% des foyers seraient couverts par la seule initiative privée. Le reste, ça sera couvert par une initiative publique et privée, conjointe, ou parfois seulement public si les opérateurs privés évitent de venir. Donc là où ça peut être intéressant, c'est qu'en dehors des zones très denses, la réglementation a imposé qu'on doit avoir une offre d'accès, que ce soit privée ou publique, une offre d'accès à la ligne. Donc là, ça peut être intéressant, dans la ligne passive, il doit avoir une offre d'accès. Après, là où il faut se battre pour que cette offre d'accès n'ait pas des conditions style un nombre minimum d'achat de ligne ou des conditions qui défavorisent les petits opérateurs, mais ça, c'est a priori possible sur 80% des lignes de demander une offre d'accès passive. Après, notamment quand on est FDN, il faut aussi se poser la question, l'offre d'accès passive, elle va arriver à ce qu'on appelle le répartiteur, le nœud de répartition optique. Et il faut aussi que vous puissiez héberger vos équipements et vous puissiez remonter vos trafics. Et donc là, notamment, ce qu'on se bat dans le collectif RFC, notamment à destination des collectivités, c'est leur donner des cahiers des charges pour que chaque fois qu'ils interviennent, ils imposent aussi qu'il y ait de l'hébergement, c'est pas du data center, seulement de l'hébergement d'équipements dans ces répartiteurs optiques. Et idéalement, et là il faut étudier, qu'il y ait aussi une offre de collecte qui soit proposée. Alors après, vous pouvez avoir une offre de collecte pure en mégabits, soit une offre de collecte, moi ce que je milite, ce que je pense qu'est l'avenir, c'est des offres activées. Il y a un opérateur qu'on appelle un opérateur de gros qui installera son équipement, style un routeur amélioré. Et si possible, vous pourriez avoir dans cette collecte, cet équipement et cet accès, une sorte de VPN, de VLAN qui vous soit réservé pour collecter vos trafics et qui soit livré, par exemple, à un point départemental. Ça serait une manière économique de pouvoir héberger des services style associatif. Ça, avoir les lourdeurs d'un hébergement très très cher, style à la baie, comme c'est le cas actuellement, ou à une collecte très très coûteuse, notamment des frais d'accès qui peuvent être très coûteux. Je ne sais pas si ça répond à... C'est très, tu peux être répondu un peu trop technique. Mais...
Oh, il y a quelques points que je vais éclaircir sur les volets techniques. Quand il y a un moyen pour un opérateur d'accéder à une offre sur la ligne physique, dite offre passive, c'est-à-dire qu'on a la fibre et puis il n'y a rien à chaque bout. En fait, ça force à poser un équipement dans chaque centrale, ce qui est l'équivalent de dans chaque centrale téléphonique. C'est l'équivalent du dégroupage total sur le cuivre. Donc pour un opérateur associatif, ça oblige à avoir une présence dans le central optique où se trouve l'abonné. Pour peu qu'on décide que cette présence, ça ne peut pas être une machine pour faire le raccordement, mais ça doit nécessairement être toute une baie à 1 200 € par mois, ben c'est vachement simple, ça veut dire que le premier abonné, il coûte minimum, avant toute forme de négociation, 1 200 € par mois. Donc voilà pourquoi faire simplement des offres d'accès à la fibre passive, ça peut être un très bon moyen de garantir qu'il n'y ait que des gros opérateurs, hormis quelques acteurs locaux qui peuvent se permettre, avec une certaine envergure, d'être présents sur leur patelin habituel. Les offres activées ou offres de collecte permettent de fonctionner différemment. C'est ce qu'on fait en ce moment sur la DSL, où on loue les lignes une à une et c'est pas nous qui déployons l'infrastructure qui permet d'allumer la ligne en région. Donc ça, c'est en fait un des combats clés pour l'avenir de la fédération FDN. Pour FDN soi-même à Paris, ça changera rien, parce qu'à Paris, on ne pourra pas jouer. Si on joue, ce sera uniquement sur des offres de type VPN. Il n'y a à peu près aucune chance que les gros opérateurs parisiens veuillent sortir une offre de collecte activée à des prix similaires aux tarifs grand public. Ça ne les intéresse pas. Donc la question sur la fibre optique va se poser à peu près partout, sauf dans les très grandes villes. Dites des choses, faites semblant de ne pas dormir. Bon.
Oui, Julien Vaubourg de LDN. J'ai une question qui est peut-être un peu naïve. Pour les tout petits FAI, avoir de la fibre, ça veut dire d'avoir des gros débits. Est-ce qu'au niveau 95e centile, au niveau transit, comment est-ce qu'on fait pour suivre derrière quand on a de la fibre?
En fait, ça s'agrège. Ça se passe assez bien. Les tarifs de la bande passante sont en chute libre. Pour mémoire, Jitoyen paye son mégabit sur ses engagements à 4,50 € ou 5 € le méga. Et c'est cher, les vrais tarifs du marché sont autour de 35 à 40 centimes. Sur des volumes plus sérieux, hein. Parce que Jitoyen, ouais, ça achète des tout petits
volumes. Des volumes auxquels on n'a pas accès quand...
Ben, ça dépend. À partir du moment où on se met à faire de l'accès fibre optique et où les gens s'en servent, tout d'un coup, tu as accès aux gros volumes. Bon, ça c'est le premier point. Il y a le deuxième point qui est un élément d'économétrie très important dans le monde des réseaux. La consommation de bande passante moyenne d'un abonné n'est pas liée à la dimension de son accès. La consommation moyenne de bande passante d'un abonné est de quelques centaines de kilobits en ce moment. On a 220 lignes ADSL actives, ce qui représente 65 mégabits de trafic. Je te laisse faire le calcul, hein, ça fait 300-400 kilos par tête de pipe. L'abonné FDN étant raisonnable dans sa consommation. Ce qui est à peu près décorrélé du fait de savoir s'il a 4 mégs ou s'il a 20 mégs. Évidemment, s'il a un modem RTC, il ne fait pas 300 kilos de bits de consommation en moyenne. Mais une fois qu'on a un certain confort de navigation sur le réseau, la consommation de bande passante est totalement décorrélée de l'accès. Elle devient exclusivement corrélée aux usages. Il est évident que la fibre optique va développer de nouveaux usages et va développer des usages qui consomment plus de bande passante. Mais la croissance de la consommation moyenne par abonné se fera en fonction de la pénétration des usages dans le territoire et pas en fonction de la techno ou du type d'accès qu'on donne aux abonnés. Donc le fait de... Si on pouvait passer toutes les lignes ADSL de FDN à 20 MB taquet toutes, ça ne changerait quasiment rien à la consommation de bande passante de FDN.
Enfin, enfin, j'ai quand même le sentiment que les abonnés FDN sont particulièrement sérieux. Je sais pas si...
plus maintenant. Ils l'ont été pendant des années parce que la bande passante nous coûtait un bras depuis qu'on a annoncé qu'elle coûtait plus un bras. Je t'assure qu'on voit très très bien le créneau dans les graphiques. Le côté tiens, maintenant je vais plus télécharger au bureau, je vais télécharger à la maison. Donc non, l'abonné FDN n'est pas beaucoup plus sérieux que la moyenne.
Ok, merci.
Alors moi j'ai une question pour Joël. Qu'est-ce que les opérateurs associatifs peuvent apporter dans le merdier? En quoi on peut aider et sur quoi on peut pousser, dans le bon sens?
Comme si tu ne le savais pas, franchement.
Je te proposerais presque de répondre. C'est plutôt à toi de répondre. Donc globalement, sans forcément parler que d'associatifs, ce qui peut pousser, et c'est ce qu'on voit et auquel on essaye aussi d'apporter plus de visibilité, c'est tous les acteurs locaux. Que ce soit associatif, association de riverains, association de petits opérateurs. Donc globalement, c'est les petits actuellement qui vont poser, qui vont apporter de l'animation au marché. Alors, je sais pas si je... Donc c'est si on laisse faire les gros, alors je vais parler là sans langue de bois, si on laisse faire les gros opérateurs, les 3 ou 4, ça va prendre énormément de temps. Ils vont conserver leur part de marché, ils vont migrer de la cuivre vers la fibre, mais à leur rythme. Et c'est seulement les petits acteurs, que ce soit des petits opérateurs, et il y a une myriade de petits opérateurs locaux qui sont créés au départ sur le marché entreprise, mais de plus en plus aussi sur le marché grand public, voire sur d'autres services. Et il y a même des villes qui commencent à se prendre en main. Il y a par exemple un exemple, on appelle le Barning en Angleterre, où il y a des collectivités qui se prennent en main, qui font carrément les tranchées eux-mêmes, négocient eux-mêmes le transit et qui proposent déjà du gigabit à leurs citoyens. Donc tous ces acteurs-là, que ce soit des associations, des petits opérateurs locaux, en association avec des collectivités volontaires, finalement c'est cette dynamique du terrain qui va faire bouger les lignes. Et moi je l'écrivais quand j'étais à l'ARCEP, une fois qu'on a fait tellement peur aux gros que tous ces petits acteurs terrain ou les moins petits comme un Numericable ou un Bouygues seront venus, ils vont prendre des clients à ces opérateurs qui sont sur la DSL actuellement. Et en leur prenant des clients, ils ne vont pas rester sans rien faire, ils vont venir. C'est pour ça que je dis que c'est ces petits acteurs, qu'ils soient locaux, associatifs, collectivités, à la manœuvre, ça peut faire bouger la mécanique et l'accélérer. Et ça, pour pouvoir que la mécanique s'accélère, dans le collectif RFC, on leur dit, mais faites des offres attractives, sans ce qu'on appelle échelle pour rentrer, c'est-à-dire sans coût important pour le premier client, hébergement au U par exemple plutôt qu'à la B, énergie pareil, voire accès à la ligne passive pas plus cher que l'accès des groupages les premières années. Donc plein de choses qui font que même des petits acteurs, même des associations peuvent venir. et qu'elles ont tout intérêt à venir sur la fibre plutôt que de rester sur le cuivre. Et ça, ça va créer cette dynamique. Et puis après, les clients vont se rendre compte que c'est bien plus intéressant, qu'ils peuvent faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant, et on crée cette dynamique. Donc oui, toutes les associations et les acteurs locaux ont un rôle primordial à jouer, quoi, à mon avis.
Après, il faut demander à l'Assemblée endormie si elle estime que c'est le rôle de FDN, mais elle dort beaucoup, l'Assemblée. Non, on n'entend pas les cris enthousiastes. Alors, pour les gens sur Internet, si on n'entend pas les cris enthousiastes, c'est parce qu'il n'y en a pas.
Bonjour, Benjamin, ancien membre de FDN et abonné d'SL. Moi, j'espère toujours que FDN, en effet, se mette à essayer de pousser l'accès fibre de FDN lui-même, enfin fourni par FDN ou fourni par des membres des FAI locaux, mais que ce soit technique ou aussi sur l'aspect politique ou voire même juridique ou judiciaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on a moyen d'essayer de se faire un projet, de pousser dans leur retranchement les délégations de services publics ou ceux qui jouent pas le jeu, ou d'aller voir telle ou telle région. Est-ce qu'on a déjà des gens qui font ça dans les différents FAI locaux à votre connaissance ou pas? Sachant que je dis ça, mais je pourrais pas vous aider. Voilà. Ceux qui me connaissent savent que je pourrais pas vous aider.
Très variable. En fait, ça dépend toujours de la qualité des relations entre les membres du FAI associatif local et les élus. S'il n'a pas réussi à se créer de pont, ça sert à rien. Et tant que les élus sont persuadés que c'est un club de pétanque, il se passera rien. Il y a quelques endroits sur lesquels il y a des contacts extrêmement fructueux. Typiquement, Tétat Neutral à Toulouse est pris très au sérieux. En grande partie à cause du boulot qu'ils ont fait sur Saint-Gaudens, où ils couvrent une zone blanche de, je sais plus, une centaine d'abonnés, un truc comme ça. Donc ça devient politiquement visible. Donc ils ont quelques très bons contacts avec la mairie de Toulouse et autour, et donc tout ce qui se fait en matière de fibre optique dans le coin se fait en ayant à l'esprit, il existe un FAI associatif qui s'appelle Tétat Neutral et qui est à 1 km de la mairie, quoi. C'est des gens qu'on connaît. Il y a aussi, autant que ma mémoire soit convenable, des bons contacts sur Bordeaux, qui pour le moment ne touchent pas aux questions de fibre optique, mais touchent à des questions d'interconnexion réseau, sur comment ouvrir un point de peering local, etc., et où Aquilonet est dans la boucle. Je ne sais pas si on a des membres d'Aquilonet dans la salle. Si on en a, ils dorment. Laissez-les dormir. Donc voilà, autant qu'ils m'en souviennent, il y a au moins ces deux cas-là de contact qui existent. Il y en a sûrement d'autres qui ont du sens. J'imagine que pour Sam Wireless, le jour où le petit village de Sam va se poser la question de mettre de la fibre optique, le mec qui traite la totalité de l'accès internet du village depuis 5 ans en Wi-Fi, la mairie peut pas ne pas lui parler, quoi. C'est juste pas possible. Le département peut l'ignorer, mais pas la mairie. Donc, il y a des points de contact. Ça fait sûrement partie des choses utiles à faire pour les membres de la fédération. Et il y a Sylvain qui voulait poser une question. Attends, le bouge de micro arrive.
Bonjour, Sylvain Valreau. Tout à l'heure, vous parliez de la possibilité pour des petits FAI de monter des initiatives, mais que ça risquait de provoquer tout de suite l'intérêt des gros qui allaient du coup venir, enfin si j'ai bien compris, qui allaient tout d'un coup venir, parce que du coup ça devient intéressant, s'il y a un petit FAI alternatif qui se monte et qui commence à créer des accès, tout de suite le gros il a envie de venir aussi pour pas se faire piquer le marché. On a vu ça par le passé, je pense même il y a très longtemps, il y avait sur la presqu'île de l'île de Ré, je crois, il y avait un FAI local qui se montait, parce que FT voulait pas venir apporter de la DSL. À partir du moment où l'annonce du nouveau FAI est arrivée, FT a déboulé, il a installé ses équipements et le projet était mort. Donc du coup, pour des FAI alternatives, ça fait beaucoup de boulot, pour des bénévoles en plus, avec le risque derrière de se faire écrabouiller par un gros opérateur qui va arriver, qui va éventuellement casser le marché. Et détruire le travail qui a été fait. Comment est-ce que des bénévoles qui vont monter un projet peuvent s'assurer que leur projet va être pérenne et ne pas courir ce genre de risque, qui est quand même très démotivant aussi.
C'est un vrai sujet. Je vois que vous posez les bonnes questions. Mais les opérateurs qu'on appelle les opérateurs de gros, qui ont fait ça aussi sur la DSL, se posent les mêmes questions. C'est les réseaux d'initiative publique. Ils ont la même question. Et là, je ne vais pas vous cacher ce que vous dites, ce qui s'est passé sur la DSL. C'est passé aussi sur les zones blanches. Chaque fois qu'il y a une collectivité qui commençait à vouloir mettre du Wi-Fi, WiMAX, ça a fait bouger les opérateurs du cuivre, ça, il ne faut pas le cacher. Il va se passer sûrement la même chose sur la fibre, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'initiatives locales, notamment de collectivités, il se passe deux choses. En premier temps, les opérateurs, les gros opérateurs refusent de venir en disant que ces collectivités vont faire faillite et pour montrer que ce n'est pas la bonne approche, qu'il faut leur laisser faire. Si ça réussit, c'est qu'il y a des petits opérateurs locaux, je parle par exemple de l'Ain où il y a des dizaines d'opérateurs locaux qui sont créés sur le marché grand public et comme entreprise. C'est vrai que ça va faire venir les opérateurs, les gros opérateurs rapidement. Et là, vous pouvez, je pense, jouer, c'est mieux à mon avis, c'est un peu plus pérenne sur la fibre que sur le cuivre, c'est que sur la fibre, là c'est un point de régulation. Un opérateur n'est pas obligé d'acheter tout le réseau. Il peut, par exemple, un opérateur de gros, l'opérateur local de la collectivité, peut acheter par exemple 5% des accès. Il peut avoir les mêmes conditions que celui qui va en acheter 30 ou 40% comme Orange. Et donc, il peut tenir sur la durée. Il n'y a plus d'effet d'être gros. On n'a pas d'effet que si on est gros, on va écraser le marché parce qu'on a des coûts moyens plus faibles. Globalement, un Orange ou un SFR aura a priori les mêmes coûts que le petit opérateur local de réseau d'initiative publique en a acheté 5% et qui a revendu, soit au passif ou à inactivé, encore un plus petit opérateur style associatif. Donc globalement, avec la régulation en dehors des 148 communes, il n'y a plus cet effet que plus on est gros, plus on peut écraser le marché. Donc là, j'ai un peu plus d'espoir pour que quelqu'un qui est connu du terrain, qui est connu des maires, de la collectivité et surtout des abonnés, il puisse avoir le même business plan. Ils ne soient pas confrontés à une guerre des prix. Et je pense qu'un opérateur, au contraire, plus on est gros comme Orange, SFR, Bouygues, ils ne pourront pas se permettre de faire une guerre des prix. Donc globalement, je pense que c'est un peu plus pérenne. Mais il faut s'assurer, et c'est là que j'y travaille avec les collectivités, c'est qu'il faut s'assurer que leurs offres soient effectivement conformes à ça. Elles ne reprennent pas des offres très discriminantes. Donc je travaille pour que notamment certaines proposent des offres, que ce soit accès passif ou accès activé, avec une visibilité par exemple sur 10 ou 20 ans, pour qu'on puisse faire un business qui tienne la route. Et là, un autre effet qui peut être très très favorable, alors après vous vérifiez s'il est pérenne, c'est qu'au départ on dit on ne fait pas confiance à un petit opérateur, on fait plutôt confiance à la bannière France Télécom, Orange, SFR, Free. Et le problème, c'est qu'on a constaté à certains endroits, c'est qu'on revient de plus en plus au contact humain. On préfère un opérateur même moins connu, mais qui démarche au niveau local, qui est connu de la mairie, qui est connu, qui a fait qu'on sait que son site, il est à tel endroit, on peut contacter la personne, il y a un nom derrière le numéro de téléphone. Ça, on l'a constaté par exemple dans l'Ain. Il y a la notion de localisation, de contact, même pour le marché entreprise. On sait téléphoner à telle personne et on sait qu'il va venir dépanner. Donc globalement, je pense que les associations et les opérateurs locaux peuvent avoir un petit plus de relations humaines, moins grosses entreprises. Et ça, on espère que ça va jouer aussi en faveur, notamment des associations. Après, le seul problème que vous pourrez avoir, mais je ne sais pas si c'est vraiment fondamental, c'est la question pour le marché grand public d'accès à des offres télé. C'est jamais facile d'avoir tout un pool de télé qui descendent. Donc je ne sais pas comment vous pourriez être traité à FDN.
Ah ben nous, c'est vachement simple, on fournit de l'internet. Pour la télé, les gens se débrouillent. Non, ça, on a répondu à la question il y a longtemps. On ne fournit pas la télé. Et c'est pas tellement parce qu'on ne peut pas. C'est surtout, enfin, on n'a pas spécialement envie. Accessoirement, si on pouvait, on saurait trouver les bons contacts. Canet, qui est opérateur sur le réseau fibre de l'Ain, a les bons accords pour avoir accès au contenu des télévisions. Même chose, France Citévision, qui est le câble opérateur sur Amiens, donc qui est le dernier câble opérateur pas encore mangé par Numéricable, qui représente dans le câble en France, il y a deux opérateurs qui font du numérique, il y a Numéricable, 4 millions de prises, et il y a France Citévision, 5000 prises. 6000 maintenant ? 9000 ? Oh là là, ça grandit ! Euh, dont un tiers en fibre, ça c'est pas mal. Ouais, eux ils font de la vraie fibre, contrairement à Numericable, eux ils font de la vraie fibre. Le point là-dedans, c'est que voilà, les contenus télé, on pourrait les obtenir. Mais c'est pas un élément clé. Voilà. C'est pas déterminant. C'est-à-dire que si on n'a pas les contenus télé, on sait se débrouiller avec d'autres choses. Entre la TNT, le satellite, les flux télé qui sont disponibles par ailleurs, etc. Il y a moyen de faire.
Clément, adhérent, j'ai peut-être trouvé une transition pour aller vers la FAI locaux, mais là vous parlez d'opérateurs locaux. Est-ce qu'il y a un démarchage pour essayer de les mettre dans la FFDN ou la FDNN, pardon, ou les CMAG, ou est-ce que c'est juste des gens qui sont venus vers vous et qu'on dit on a besoin d'un soutien technique, ou est-ce que vous essayez aussi d'impliquer des projets préexistants pour aussi, pourquoi pas, avoir une audience nationale ou plus sérieuse?
Alors sur la fédération, alors pour le coup, c'est sur les acronymes, tout le monde se perd. FDN, tout le monde le connaît. La fédération, c'est FFDN. Et FDNN, c'est le Fonds de défense de la neutralité du net. C'est de la tirelire. Non, et j'ai fini de boucler la mise en forme des comptes cette nuit. C'est vraiment la tirelire. Sur les points de contact avec des projets existants dans la FED, en fait, les FAI se montent plus ou moins spontanément. Certains d'entre eux ne nous ont pas attendus. Samoyer-Less s'est monté avant qu'on lance le projet des SMAG. D'autres sont vraiment partis des quelques conférences qu'on a fait sur le sujet. L'IDN devient trop gros, ça va être ingérable. Ah, vous voyez, c'est le merdier pour organiser une AG, on est obligé de mobiliser un amphi et tout, alors que les gens sérieux font ça au bistrot. Enfin, voilà, nous, jusqu'à 2006, on faisait les AG au troquet, ça marchait bien. Si tu veux, les problèmes de comptabilité quand on manipule les abonnements de 40 personnes sont pas les mêmes que quand on manipule les cotisations de 450. L'air de rien, quand on commence à brasser un peu plus de 100 000 euros dans l'association, il y a plein de gens qui peuvent se poser des questions sur... Et alors finalement, le président, avec quoi il a acheté sa Ferrari, enfin, voilà quoi. C'est... Non, elle est pas chère, ma Ferrari. Mais c'est parce qu'elle est grande comme ça. En fait, on pourrait mettre IRC là à la place de à la place du truc débile. Ce serait plus utile. Ça permettrait de faire les choses bêtes comme l'an dernier.
C'est interdit.
Ah bon, c'est interdit. Mais on fait quoi aux gens qui le font quand même? Ah bah oui, ça, si c'est interdit, ils peuvent pas. Ouais, ouais. Kickban, ça va être bien. Donc les projets qui ont rejoint la fédération sont essentiellement des projets issus de l'essaimage. C'est-à-dire parce qu'on a lancé un appel à créer des projets, ils ont créé des choses. Certains sont des projets à 95% virtuels. Fabrique comme accès internet du FDN revendu en marque blanche, et où en fait la seule chose qui traite dans le métier de FAI associatif, c'est le associatif qui est le plus important, parce qu'il crée des réseaux de discussion sur le terrain, parce qu'il crée des gens qui se parlent et qui se connaissent, parce que si quelqu'un un jour aura des contacts avec les élus de la ville ou du département, ce sont ces gens là Il faut faire rentrer les gens du dehors qui sont perdus. Donc voilà, la majorité des projets sont des projets qui naissent d'eux-mêmes. Après, sur des projets préexistants qui sont en lien avec des questions de réseau, le point n'a jamais eu lieu. Oui. Voilà. Je n'ai pas suivi. Ah. Bon, c'est pas grave. Faut pas que je regarde IRC, moi, ça va être des bêtises. C'est pour vous faire réguler, vous, en général, à mes dépens. Quand il y a un projet de réseau fibre, le CAN s'est encore jamais produit, qui est déjà dans la même région, un projet de réseau fibre en train de naître, et un FAI associatif local existant et non négligeable. Donc c'est jamais arrivé qu'on récupère au sein de la FED le fruit d'un projet de réseau fibre. Des projets de réseau fibre existants, il y en a qu'on suit depuis plusieurs années. Le réseau de l'Ain, ça fait 5 ans, 6 ans qu'on le suit. Ça fait, Dom, je sais pas, tu te souviens toi?
Au moins.
Ça fait au moins 5-6 ans qu'on suit les travaux de Bernard Dugas.
Parce que ouais, sur les débuts, avant la première prise activée, on avait déjà des contacts avec les gens qui y travaillaient. Donc
ça fait très longtemps qu'on est en contact. Le réseau de Chartres, de la régie d'électricité de Chartres, on est en contact avec eux depuis avant la pose de la première prise. Maintenant, il se trouve qu'on n'a pas d'association dans le coin. Alors, FDN a le savoir-faire technique. Enfin, si tu veux nous poser un switch, un routeur, et faire de la fibre à Chartres, on sait le faire. Juste quel sens ça a de piloter depuis Paris des abonnements à Chartres. Après, s'il se trouve 5 personnes à Chartres qui veulent monter un FAI associatif, il y a des trucs géniaux à faire parce qu'ils ont un réseau fibre optique local, parce que nous on peut leur apporter les contacts nécessaires, ça prend un quart d'heure, et tiens, voilà, c'est lui, contacte-le. S'il a un doute sur ton sérieux, tu dis que tu viens de notre part, voilà. Ça on sait faire, mais juste à Chartres, on n'a personne. Dans l'Ain, il y a un réseau fibre optique qui existe, qui tourne, juste nous, dans l'Ain, on a, à ma connaissance, pas d'adhérents, peut-être un ou deux, et ils ont visiblement pas décidé de devenir un FAI associatif. Donc c'est voilà. La grande difficulté, c'est de trouver au même endroit une petite équipe qui a envie de monter un FAI associatif et une collectivité locale qui a envie de monter un réseau fibre optique. Sur les structures d'il y a 4 ans, c'était très rare. Sur les structures de l'année prochaine, ça va être beaucoup plus fréquent. Parce que des collectivités qui se disent il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Si on veut fibrer chez nous un tout petit peu après la Roumanie, c'est bien ça, hein, on est classé dans les classements européens sensiblement derrière la Roumanie en termes de taux de couverture. On vient juste de les battre. Ah bien, on rattrape. Parce que c'est quand même un truc super avant-gardiste en termes de techno la Roumanie.
Par contre, on ne met pas les fibres dans les arbres.
Ouais, on est 23e sur 27. Ouais, hein, bien classé. Hein, la 5e puissance économique du monde. Bon, ceci dit, les Allemands, ils sont même pas dans le...
Je peux rassurer, les Allemands et les Anglais sont derrière nous.
Les Allemands et les Anglais sont tellement peu fibrés qu'ils sont pas dans le classement. C'est-à-dire qu'ils sont au-delà de 27e sur 27. Mais donc, à un moment, les élus vont quand même s'affoler et faire des choses. Et donc, la probabilité que des projets aient lieu à des endroits où les FAI de la Fédération existent déjà augmente. Et le nombre de FAI de la Fédération augmentant... la probabilité qu'il se monte spontanément à FAI pour participer à un projet de réseau fibre optique qui existe dans un coin augmente également. C'est-à-dire que il y a un phénomène de cercle vertueux là-dedans. Les villes. C'est-à-dire des endroits où ça pourrait se produire. J'ai pas d'idée comme ça très nette. Sur Toulouse, il se fera rien sans que t'es à neutral en entende parler, par exemple. Où est-ce qu'on a encore quelques FAI fort actifs, Bordeaux, Aquilonnette a quelques bons contacts, je l'ai déjà cité. Nancy, je sais pas où vous en êtes des relations avec la mairie, mais Julien, pas grand chose. Ah, c'est triste, c'était mieux la dernière fois. Par exemple, il y a un exemple qui était vraiment pas mal, qui était Salange Data Network. L'histoire de Salange est très drôle. C'était une ville pilote désignée par l'ARCEP, donc sur laquelle tout le monde s'était mis d'accord sur le fait qu'il allait y avoir un réseau fibre optique construit qui servirait à voir comment ça marche ce machin, un des tout premiers de France. Parce que Salange était super mal couverte en ADSL, mais un truc tout pourri. Du coup, pendant que la communauté payait le réseau de fibre optique, bah France Télécom a mis des DSLAM partout et maintenant il y a de la DSL 20 MB dans toute la ville. En fait, France Télécom a décidé de mettre de la DSL partout pour tuer le réseau de fibre optique alors que tout le monde était d'accord sur le fait que c'était une expérimentation nationale et qu'on voulait regarder comment ça marchait. Ça a bien fait comprendre aux élus que France Télécom, c'était pas forcément leur allié. Et ça a Et un des effets, c'est qu'il y a un groupe associatif qui s'est monté, qui s'appelle Salange Data Network, et qui est clone de FDN en local, qui compte jouer à la fibre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles, donc je ne sais pas s'ils existent encore et s'ils sont encore assez motivés. Mais voilà, ça c'est un exemple de ville où la présence d'un réseau fibre optique a donné l'idée aux gens qu'il y avait moyen de jouer. C'est-à-dire que les gens qui se disaient j'ai envie de monter un FAI associatif, mais bon, bof, c'est du travail, faut signer les papiers et tout, l'existence d'un réseau fibre optique peut être le petit plus de motivation. Ça suffit pas à faire avancer les choses vite, mais ça peut donner des petits plus. Après, les autres villes où il y a des choses qui vont se passer, j'en sais rien.
Je ne sais pas si toi. Non, je parlais d'Ardèche, Drôme numérique. Il se passe aussi des choses en Moselle, par exemple. Mais ce que vous devez voir actuellement, et ça c'est difficile pour le démarrage, c'est que les collectivités interviennent principalement en dehors des grandes villes. Et en général, quand il se crée des associations, c'est proche du milieu universitaire, c'est assez concentré. Et donc là où justement les collectivités interviennent assez peu, où il n'y a pas d'opérateurs de groupe. Donc il y a une manière d'en sortir, mais pour l'instant elle n'est pas encore mise en œuvre et il faut que les collectivités soient très confiantes. Mais ce qui pourrait se passer prochainement, et on y milite pour ça, c'est que des collectivités interviennent pour traiter par exemple la ruralité, retiennent un opérateur, par exemple un délégataire, un action, altitude ou autre. Mais ce qui serait bien aussi, et c'est là qu'il faut qu'ils aient de la confiance, c'est qu'ils achètent aussi des fibres dans les zones où déploiement d'Orange ou de SFR. Réglementairement, c'est possible. Une collectivité pourrait dire, mais j'interviens sur tout le territoire. Une partie du territoire, c'est moi qui décide de déployer, avec mon opérateur de gros qui fera venir notamment des associations, des petits opérateurs locaux, des tarifs normaux. Mais aussi, il pourrait imposer à son délégataire d'intervenir, aussi par exemple d'acheter 5 ou 10% des fibres d'Orange ou de SFR dans la grosse ville du coin, avec la même offre à destination des petits opérateurs ou des associations. Pour l'instant, ils n'en ont pas encore confiance, mais ça, réglementairement et légalement, c'est possible. Et si jamais les collectivités se rendent compte que, entre les petites associations, les petits opérateurs locaux, voire même leurs propres besoins de raccordement de sites publics, ils auraient à rentabiliser un achat de 5 ou 10% des lignes, la collectivité pourrait faire cet investissement et faire venir aussi les associations et des petits opérateurs derrière. Y compris en zone de déploiement d'Orange, par exemple, en plein cœur de Laval ou dans les grandes villes où Orange déploie ou SFR déploie, la collectivité pourrait aussi intervenir à des tarifs attractifs. Mais ça, elles ne sont pas encore suffisamment rassurées au niveau financier pour aller jusque-là. Mais j'espère que dans 1 ou 2 ans, notamment avec ce que l'État a annoncé, c'est-à-dire qu'ils allaient prêter de l'argent aux collectivités, par exemple la Caisse des dépôts avec les livrets A, prêter à 20 ou 25 ans, vont peut-être se poser la question, est-ce que c'est pas intéressant d'investir, y compris pour acheter des fibres en zone privée, quoi,
et vous faire venir. En fait, c'est un mode de co-construction après coup, en fait, qui est une des possibilités, effectivement, d'intervention du public sur les zones où il y a eu des déclarations d'intention privée. Moi, je voulais revenir un petit peu sur ce que tu as posé comme question en rapport avec les services de télévision. Dans ce qu'il y avait dans la réponse de Benjamin, c'est que la question d'avoir un service triple play, quadruple play, incluant le téléphone, la télévision, etc., c'est des problématiques d'opérateurs locaux, commerciaux, qui visent du grand public et qui doivent avoir une offre concurrentielle avec celle de nos 4 ténors nationaux. Ils peuvent faire plus innovant, ils peuvent proposer d'autres choses, mais ils sont quasiment obligés de proposer ça s'ils veulent avoir une chance d'exister. Dans le contexte de FAI associatif, on ne se pose pas forcément les mêmes questions. Puisque c'est quelque part le service qu'on fait pour soi-même ou le service qu'on veut proposer tel qu'on l'imagine. On n'est pas dans un contexte de part de marché à conquérir. On peut tout à fait se positionner sur une offre totalement alternative. Qui fait le pari de
C'est des choses qui reviennent régulièrement. La télévision, on a à peu près toujours dit qu'au niveau d'FDN, on n'avait pas envie d'en faire. Il y a le serpent de mer de l'offre de téléphonie qui ressurgit à peu près à chaque AG. Et puis finalement, soit il n'y a pas de motivation, soit il n'y a personne pour le faire, soit je ne sais pas quoi. Mais toujours est-il que jusque-là...
Moi, je ne l'ai bien soigneusement pas remis à l'ordre du
jour.
Voilà,
non, mais... parce que quelque part, on se dit... fournisseur d'accès au débit, etc., faut faire de l'internet et du téléphone. Puis finalement, on fait pas de téléphone et à peu près tous les adhérents sont contents. Ceux qui veulent une offre de téléphonie en VoIP ont su trouver des services chez des gens qui font que ça, ou l'ont peut-être fait eux-mêmes, ou je sais pas. Et du coup, les questions se posent un peu différemment. Dans le contexte d'un FAI associatif où on est quelque part hors marché, et c'est ce qui fait la spécificité, c'est ce qui fait qu'on fonctionne différemment par rapport à effectivement des opérateurs locaux commerciaux qui doivent se positionner en concurrence avec avec les opérateurs nationaux, quoi. Donc c'est pour ça que et ce qui est intéressant, c'est de trouver ce qu'il peut y avoir de commun comme outil qui pourra leur permettre aux différents types d'acteurs de jouer sur les réseaux publics ou privés et qui fait qu'ils ont ça en commun d'être différents par rapport à...
Là, je vous rejoins tout à fait, c'est qu'actuellement les opérateurs ne se différencient pas, les opérateurs, pas associatifs, mais les opérateurs commerciaux se différencient très très peu les uns les autres, ils proposent à peu près le même triple play. Et c'est pour ça qu'on milite notamment dans le collectif référentiel FIP commun, le collectif RFC. On a lancé dès le départ ce travail sur les offres activées. Mais surtout, c'est pour rejoindre la dynamique qui existe dans beaucoup d'autres pays qu'on appelle l'open access. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière l'open access? C'est-à-dire qu'on pourrait très bien, et ça c'est pas le cas en France, mais on espère que ça va devenir le cas, c'est qu'un client, qu'il soit le grand public ou qu'il soit geek ou autre, pourrait très bien avoir un accès Internet avec les caractéristiques, par exemple, chez FDN, et pourrait très bien, je crois, l'avoir sur IP un autre opérateur, la télé, un troisième opérateur, et c'est ça qui est permis derrière les services activés Open Access. On fait notre choix d'opérateur et on choisit le meilleur pour chaque domaine. On ne prend plus un package où on est lié, et notamment sur les adresses mail, sur plein de choses, on est lié à son opérateur, alors qu'avec l'Open Access, c'est pour ça que c'est aussi les gros opérateurs font tout pour le freiner, c'est qu'on permettrait à chacun d'être bon sur son créneau et d'accéder tout de suite à toute la population locale, quoi, y compris un FAI associatif.
Passons le micro pour les gens qui sont au bout du net. Un point... Non, on t'entend pas et les gens sur internet ne t'entendent pas. C'est pas une question de.
Il marche plus. Si, il marche. Juste une toute petite précision. C'est vrai que tout le monde se focalise sur le triple play parce que c'est un usage courant, que c'est comme ça, que ça s'est démocratisé, que ça s'est répandu sur le territoire national, que ce sont les offres qui sont disponibles. Mais il n'y a pas que la France sur la planète Terre. C'est juste un tout petit peu plus grand que la France. Il y a un exemple qui est intéressant et que je vous invite à regarder, c'est quand même celui de la Suède, notamment. Donc ça fait un petit peu référence, évidemment, à ce que dit Joël à propos de l'open access. Là, c'est plus une question, je dirais, presque de coutume et d'usage que nous avons ici, mais il existe bien d'autres moyens de pouvoir fournir aux citoyens, aux abonnés, d'autres types de services dans des modèles qui existent. Hein. C'est pas parce qu'on est derrière notre ligne magino-culturelle qu'il n'y a pas d'autres choses qui existent ailleurs.
Alors Manu, tu voulais le micro, j'ai pas compris pourquoi, mais c'est pas grave.
C'était pour revenir sur la question de la télé, enfin rebondir sur la remarque de Domi. Moi, très clairement, il se trouve que maintenant, je suis commercial chez un petit fournisseur d'accès Internet. qui n'est pas associatif. Là, en ce moment, je suis en train de pas mal bosser sur la Lorraine, la communauté de communes de Mézières-lès-Metz, et je suis en concurrence frontale avec Numéricable, donc qui fournit de la fausse fibre, effectivement. Nous, on a un accès vraie fibre, avec un bouquet de seulement, entre guillemets, 50 chaînes, et on se retrouve face à Numéricable, qui ont un bouquet de télé... enfin beaucoup plus important, et sur presque la centaine de personnes que je vais contacter chaque jour pour présenter les offres qu'on fait, il y a vraiment assez peu de personnes qui sont gênées par le fait qu'il y ait moins de télé que le concurrent Numéricable. Donc même sur un créneau, on va dire, commercial pur et dur, donc hors associatif, la question du bouquet télévisuel n'est pas spécialement un frein. Entre un accès à 20 mégas avec plein de chaînes de télévision et un accès 100 mégas symétrique avec que 50 chaînes de télé, les gens font vraiment vite le choix. Donc vraiment la question de la télé n'est pas si déterminante pour un foyer quant au choix du fournisseur d'accès internet. Donc le fait qu'on puisse pas avoir un bouquet aussi étendu que Numérique Lab ou Canal Plus dans notre offre triple play si on faisait de la télé avec la fibre est vraiment pas gênante. En tout cas, c'est l'expérience que j'en fais moi au quotidien.
D'autres points?
Oui, bonjour Vincent, mon FDN. Si la fibre optique est l'avenir d'Internet, quel est l'avenir de FDN dans les grandes villes, si on ne peut pas avoir accès à la fibre?
C'est une bonne question. Je pense qu'on n'aura pas d'accès à la fibre dans les grandes villes tout de suite, qu'on aura des solutions de VPN. Comme ça, pour mémoire, on fait pas encore, parce que c'est cet après-midi, le rapport moral et financier de l'exercice 2012 pour FDN, mais dans les points intéressants, il y a le fait qu'on a ouvert une offre de VPN, dont on parlera ce matin si vous voulez, parce qu'il y a des vraies questions de politique autour, et en particulier de la façon dont on monte des partenariats avec Reporters sans frontières sur le sujet. J'ai l'impression que le vice-président va mourir étouffé à côté de moi. Faut que tu respires, Birdie. On a besoin de toi. On sait fournir des VPN à pas cher. Un des effets de l'offre de VPN que FDN a sorti, c'est que sur ton accès chez un opérateur autre où YouTube marche mal, donc on va dire au hasard Free ou Orange, quand tu utilises un VPN FDN, YouTube marche bien.
Ouais, je confirme.
Sur la même ligne. Dans la même ligne, au lieu d'utiliser l'accès réseau tout bizarre de ton fournisseur de télévision qui fait mal de l'internet, tu prends un VPN chez un fournisseur d'internet qui fait pas de télévision, et sur le VPN, t'as de l'internet qui marche. C'est-à-dire que on désature YouTube pour les abonnés free. Pour ceux qui veulent. Et donc on a un avenir quand même en centre-ville, quand les opérateurs en seront à fournir des IP privées masqueradées parce qu'il n'y a plus d'IPv4 sur les fibres, nous on fournira toujours des IP publiques aux gens. En VPN. S'il faut. Quand les opérateurs en seront à finir d'imposer les priorisations commerciales vers FaceTube ou YouBook en fonction de leurs accords commerciaux, etc., nous, on continuera à fournir du réseau propre. Et donc, ça aura encore un sens. Ça aura plus le même que de prendre son accès à DSL chez FDN. Ça sera en fait prendre un accès FDN en surcouche d'un truc qui marche mal. Mais en soi, à l'heure actuelle, l'accès ADSL que tu prends chez FDN, c'est une surcouche d'un accès SFR ou d'un accès Orange, c'est juste qu'on te le dit pas. Tu le vois pas. Mais c'est une surcouche d'un accès Orange ou... Oh, c'est-tu pas mignon? Service à table et tout.
Un deux, oui.
Juste pour rebondir aussi sur ta question, je suis désolé, je suis en train de mourir aujourd'hui. Moi, ce que je constate aussi, c'est que on commence à avoir une grosse bataille en France entre les réseaux d'initiative publique et les opérateurs privés qui fibrent la France. Et il y a une plus grosse ouverture de la part des réseaux d'initiative publique que des opérateurs privés, ça c'est indéniable. Et Je pense que s'il y a un travail qui est fait un peu nationalement pour permettre un accès économiquement viable pour les petits opérateurs, je ne vois pas de raison de ne pas utiliser de la fibre en région, et y compris dans des villes pas forcément si petites que ça, quoi. D'accord.
Et sur le fait que le seul problème ou l'endroit où on pourrait pas intervenir, c'est les zones très denses et les très grandes villes.
Bah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout, en fait. Moi, je pense que ça va s'ouvrir.
Excusez-moi, à ce sujet, justement, finalement, aujourd'hui, si on considère que effectivement l'accès à DSL fourni par FDN n'est qu'une surcouche des accès à France Télécom ou SFR, vu que c'est techniquement le cas, au-dessus de la TM et compagnie dans des tunnels, est-ce que la différence de prix entre entre prendre le VPN FDN sur son accès machin box et ou prendre FDN en natif, c'est pas finalement plus intéressant de prendre le VPN?
En termes de tarifs, c'est pas clair. Parce que le VPN, pour le moment, il est facturé 8 euros par mois, au-dessus d'un accès qui tend à devenir à 35-36 euros hein, ces temps-ci. Ça amène à plus cher que du FDN. L'un dans l'autre, c'est pas certain. Et voilà, donc c'est vraiment pas certain.
Ce que je peux dire, c'est qu'en zone très dense, actuellement, effectivement, c'est difficile pour un petit opérateur de s'insérer. Mais il y a quand même deux ouvertures qui sont déjà prévues. C'est que, vu la répartition des coûts, des petits opérateurs comme Bouygues, voire même Free, seraient intéressés à faire des offres de gros, que ce soit passives ou activées, puisqu'ils ont payé un coût fixe. Alors, pour la faire simple, dans les zones très denses, quand ils interviennent, si par exemple sont trois opérateurs sur une zone, chacun paye un tiers du coût. Donc si vous avez 50% de part de marché et que vous avez payé qu'un tiers, vous avez un coût de revient extraordinaire. Par contre, si vous êtes un Bouygues, par exemple, vous avez que 10 ou 15% de part de marché, vous payez beaucoup plus que vos concurrents et vous avez tout intérêt à faire des offres de gros pour pouvoir réduire son coût. Donc s'il y a vraiment une pression et qu'il y a une demande, des opérateurs comme Bouygues, à mon avis, seront prêts, que ce soit en passif ou en activé, à faire des offres pour pouvoir réduire leur propre coût de revient en zone très dense. Et si ça ne se passe pas spontanément, donc c'est déjà permis, je crois jusqu'à 5% je crois, de revente des lignes, ils peuvent faire des offres de gros sans payer autre chose. Donc il y a déjà une ouverture réglementaire qui est faite. Et si en plus ça ne se passait pas, le régulateur va regarder ce qu'on appelle le marché 5, des offres bitstream, des offres activées, pour les imposer aux opérateurs si spontanément on les émerge pas. Donc même en zone très dense, ça va finir par émerger, quoi. Et vous allez pouvoir avoir des accès passifs ou activés en zone très dense.
Mais on n'a pas accédé à la DSL tout de suite. Non, ça a été un combat.
Ah, la DSL, on a mis très longtemps. C'est-à-dire que non seulement il fallait que les offres sur le marché 5, donc dites non dégroupées, ADSL option 5, existe, mais il fallait en plus que les opérateurs veuillent bien nous en vendre. Et ça, l'histoire a montré que c'était compliqué. Parce qu'on a quand même réussi à ce que notre opérateur de collecte nous foute dehors. Pas parce qu'on payait pas, hein, juste parce qu'ils avaient pas envie. Ce qui sature dans le mobile, c'est toujours la portion qui est entre l'antenne et le téléphone. Alors celle-là, que ce soit en VPN ou en pas VPN ou en autre chose, ça change rien. Et une fois qu'on a atteint l'antenne et qu'on est dans des réseaux plus sérieux que des machins par onde, on arrive, enfin, il y a largement assez de débit pour encaisser le surcoût du VPN. Donc c'est voilà, l'avenir du mobile, enfin l'avenir de l'internet propre en mobile, c'est probablement des technos à base de VPN. Je suis pas convaincu qu'il se présente ne serait-ce qu'un seul opérateur qui puisse, qui souhaite fournir de l'accès à internet propre en mobile, soit via des offres de gros, soit via des offres plus normales. Il y en a un qui fournissait des IP publics, il n'en fournit plus.
La réponse que tu as fait, Sylvain de FDN, la réponse que tu as fait avec le VPN pour les offres 3G et 4G, c'est ce que je voulais dire en fait. Donc c'est bien. Sinon, en complément à ce qui a été dit tout à l'heure, tu disais que c'était à peu près comparable ou c'était pas évident que ça soit plus intéressant de faire de prendre une offre de VPN, de FDN, par-dessus un accès d'opérateur classique. Je pense qu'on peut difficilement comparer les deux, étant donné que FDN va proposer des services et de l'IP propre par-dessus toute l'offre que l'opérateur fournit déjà, y compris bouquet télé, et, certes ça ne nous intéresse pas, mais quand même il le fournit, et téléphonie, qui et la somme de tous ces services-là représente une valeur qui est quand même supérieure à ce que nous on peut fournir avec notre accès ADSL. Donc je pense que si on veut comparer les deux, quand même c'est difficile de dire que déjà c'est difficile de dire que les deux sont comparables et donc de comparer les valeurs, mais si on les compare
c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué à comparer parce que c'est vraiment deux choses très différentes. Ça force à être client chez des gens à qui on n'a pas forcément envie de parler. Il y a mille petites choses qui peuvent jouer. Donc c'est pas facile à comparer. Mais l'idée Bidulbox plus VPN, c'est moins cher que FDN, n'est pas évidente. Rien que sur le plan économique, elle n'est pas évidente. Moi, je suis surpris qu'il n'y ait personne qui ait voulu parler de neutralité du net. On s'en fout.
Justement, Benjamin, je voulais y venir. Moi, j'avais une question. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le sujet de la neutralité du net de très très près. Je regarde beaucoup PC Impact, donc c'est principalement ma source d'information. Mais en fait, j'aurais voulu avoir, est-ce que tu as des nouvelles de Christine Albanel ?
Christine Albanel, oui, elle a beau temps. elle est toujours salariée de la branche contenu chez Orange. Oui, bon, voilà. En effet. C'est gentil de nous avoir amené ta grippe. Ah bah oui, ça. Oui, Albanel, ça fait tousser. Alors sur la neutralité du net, où est-ce que je reprends ?
L'AG de l'année dernière.
L'AG de l'année dernière, ouais, bah ça va nous faire du boulot alors. Eh ben en fait, il s'est pas passé grand-chose, dites donc. Les éléments clés. En fait, sur ce, alors je vais supposer que vous avez tous des connaissances de base du dossier et du débat politique actuel sur la neutralité du net. Si c'est pas le cas, faut lever la main vite et je fais un résumé. Donc je vais supposer que tout le monde sait un peu. En fait, le débat traîne parce que au niveau européen, les politiques ont pas envie de bouger. Ils ont bien identifié les problèmes que ça posait, ils n'ont pas envie d'y aller, ils considèrent que le marché fera son travail, que la main invisible du marché étant le plus sûr moyen d'atteindre le bonheur pour l'humanité, il suffit de laisser faire les acteurs de marché et donc le bonheur de l'humanité viendra. Si le bonheur de l'humanité est lié à la neutralité du réseau, alors le réseau sera neutre, et si c'est lié à la repousse des cheveux, alors les cheveux repousseront. Donc ils sont d'avis que sur ce domaine-là, il faut laisser faire le marché, qui va se débrouiller tout seul, et que donc Orange il fait ce qu'il veut avec vos paquets IP, et puis Facebook il fait ce qu'il veut avec votre vie privée, et puis ils font les accords qu'ils veulent entre eux, et ça mènera à un truc qui sera forcément bien. Donc eux ils sont d'avis d'attendre. Au niveau français, les politiques disent pas tout à fait la même chose. Par contre, ils font bien la même chose. Donc qu'à l'heure actuelle, tout le monde au gouvernement joue à louvoyer, à retarder, etc., etc. Il y avait eu quelques pressions mises sur les équipes de campagne pendant la présidentielle pour essayer de pousser à la roue en disant « c'est quoi votre position sur les sujets neutralité, internet, brevetabilité, des logiciels ?» Voilà, tous nos sujets habituels du numérique portés par toutes les associations habituelles. On avait eu droit à des réponses relativement polies de la totalité des candidats. Et puis il se passe bien rien. Et en fait, il se passe bien rien parce qu'ils ont. Alors je sais pas pourquoi exactement, mais ça ressemble bien à ils auraient pas envie. Fleur Pellerin, on l'a incité à réfléchir sur la neutralité du net quand elle a été nommée responsable du numérique dans la campagne de François Hollande en novembre 2011. Donc quand en janvier 2013. Un an et deux mois plus tard, elle monte une table ronde pour essayer de se renseigner sur la neutralité du net en mettant toutes les parties prenantes dans un colloque, etc., etc. Elle donne l'impression qu'elle découvre le sujet, c'est très inquiétant 14 mois plus tard. Elle annonce lors du colloque en question, qui était en janvier, hein, je me trompe pas, c'était mi-janvier ce truc-là. Elle annonce que le 28 février, le gouvernement tiendra un séminaire sur le numérique et rendra une position claire à ce moment-là. Et alors la position claire rendue par le gouvernement, c'est c'est compliqué. Alors peut-être, mais bon, alors sûrement, mais faudrait demander. En fait, on va regarder. Voilà. Voilà, donc on a le même type de phénomène. À chaque fois qu'il y a une consultation lancée sur le sujet, il y a un rapport qui est émis. Le rapport dit à peu près tout le temps la même chose. Le premier gros organisme en France à s'être emparé du sujet, c'était l'ARCEP, qui a mené un an et demi de travail, qui s'est conclu sur un symposium international et un rapport assez épais sur le sujet, qui dit qu'il faut une loi si on veut protéger la neutralité du net. Ça va pas venir tout seul et le marché ne suffira pas. En particulier, le marché ne traitera pas les questions de liberté d'expression. Les parlementaires se sont saisis du sujet et puis ont longuement réfléchi, auditionné pendant des mois, et puis émis un rapport co-signé par Laure de la Raudière, député UMP, et Corinne Hérel, député PS, qui dit alors en fait que le marché ne se suffira pas pour les problèmes de liberté d'expression liés à la neutralité du net, et que déjà pour la neutralité toute seule en dehors de la liberté d'expression, il faudrait une loi. L'Europe a commandé des rapports, le Parlement européen a commandé des rapports, la Commission européenne doit en être à sa 5e ou 6e consultation publique sur le sujet, dont la conclusion est régulièrement que sur les questions de marché, il faudrait une loi pour garantir la neutralité comme facteur de libre concurrence, et que pour les questions de liberté d'expression, de toute façon, il faudra légiférer. Voilà. Je pense que le gouvernement devrait lancer une consultation sur le sujet dans les mois qui viennent. Réponse attendue vers novembre ou décembre 2013 ou 14. Donc le point essentiel sur l'état de l'actualité, c'est celui-là. Dans les points en termes de... Il y a un élément clé pour moi qui est une question de stratégie. À l'heure actuelle, ce qu'on essaye de faire, c'est d'expliquer les questions de neutralité du net en prenant ça par l'angle. Les opérateurs font tel truc dégueulasse, c'est pas bien parce que... En général, dans le « c'est pas bien parce que », il faut démontrer que ça pose un problème économique, parce que vous savez bien, en ce bas monde, si un problème n'est pas économique, ben c'est pas un problème. Du coup, on passe un temps dingue là-dessus, et très vite, les opérateurs sentent bien qu'on essaye de... En fait, on essaye de se mêler de ce qui nous regarde, à savoir ce qu'ils font avec nos données. Alors ça leur plaît pas du tout. Ils aimeraient mieux qu'on se mêle d'autres choses. C'est très dangereux comme approche parce qu'ils ont une puissance de feu en matière de lobbying qui n'est pas comparable à la nôtre. Quand vous vous promenez dans les couloirs des ministères à Bercy, il y a plus de salariés ou d'anciens salariés de France Télécom que de tout autre organisme relevant de l'industrie. Donc ils ont une puissance de feu qui est incroyable. exprès ou pas d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que le ministre, dans les fonctionnaires autour de lui, il y en a, je sais pas, un tiers, un quart, la moitié, qui ont à un moment ou à un autre bossé chez France Télécom, donc qui ont dans la tête le formatage maison. La question stratégique sur la neutralité du net, je pense, ce que moi je défends en ce moment dans mes prises de position publiques sur le sujet et quand je suis consulté, c'est une approche en trois étapes. C'est de commencer par dire, puisque tout le monde nous dit, parce que pour le coup dans tous les débats, systématiquement les opérateurs nous disent « Ouais, mais effectivement, la neutralité du net, c'est super important pour la liberté d'expression, mais vous comprenez bien, nous, la liberté d'expression, on ne veut pas y toucher, on ne veut pas l'abîmer. » Donc la première approche que j'ai moi, c'est de leur dire « Ok, le seul point sur lequel on est d'accord dans le débat, c'est celui-là. Eh bien, mettons-le par écrit. » En France, il n'y a pas de loi qui protège la liberté d'expression. Si un jour vous cherchez, vous trouverez rapidement que ce qui protège la liberté d'expression, c'est l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et puis c'est tout. Et en fait, ça définit la liberté d'expression, ça ne la protège pas. Le fait de priver quelqu'un de sa liberté d'expression n'est pas en France un délit. Donc le fait que moi, hébergeur, j'ai supprimé les pages qui ne me plaisaient pas de votre blog, ce n'est pas en France un délit. Donc ça crée des... Non, tant que tu ramènes du manger, il revient. Hein. Je te préviens, vous pouvez jouer toute la journée comme ça. Moi, je suis très surpris qu'il n'ait pas piqué l'assiette. Certes. Donc la première étape serait de dire, ok, posons. Quelque chose qui n'avait pas de sens au siècle dernier, posons une défense de la liberté d'expression. Au siècle dernier, pour vous priver de votre liberté d'expression, en gros, fallait vous taper dessus jusqu'à ce que vous vous taisiez. Ça marche toujours, mais c'est plus la seule méthode possible. Il y a une méthode possible qui est le filtrage ou le blocage par les intermédiaires techniques. Donc posons une loi qui dise voilà, porter atteinte à la liberté d'expression, c'est pénal, comme porter atteinte à votre liberté d'aller et venir. Juste ça, un texte simple, court, il faut trouver comment il s'articule et comment il se range, dans quel morceau, probablement dans le code pénal, probablement dans le chapitre du code pénal qui parle des libertés individuelles. Voilà, c'est assez facile, et ça, les opérateurs ne vont pas s'y opposer. Même s'ils arrivent à voir venir le coup, même s'ils arrivent à voir que ça va retomber sur eux en pluie fine et pénétrante en termes d'obligations et de contraintes et d'obligations de rendre le service, ils pourront pas frontalement aller dire au gouvernement « pour mon business, j'ai besoin de porter atteinte à la liberté d'expression ». Sinon, ça les force à reconnaître que leur position jusqu'à présent était hypocrite sur ces sujets-là. Et même, enfin, en France, on n'imagine pas le porte-parole de France Télécom aller expliquer au JT de 20h que le gouvernement fait n'importe quoi à vouloir défendre la liberté d'expression. Lui, il a besoin de faire du cash et pour ça, il a besoin de... Ça va pas aller. Même Claire Chazal va se rendre compte que ça marche pas. Donc voilà, ce texte-là, il a de bonnes chances de passer. Il pose des tas de questions en termes juridiques. Comment il faut le rédiger, à quel endroit il faut le mettre, comment ça se définit, etc. Comme j'en avais marre de dire il en faut un, j'ai eu l'occasion lors d'un barcamp d'en écrire un. Le texte de loi, il fait 5 lignes, c'est un truc tout crevu. Il y a 4 pages autour pour expliquer à quoi il sert. On a fait en sorte que ça arrive sur les bureaux des ministres concernés avant le séminaire du gouvernement. On a fait en sorte que ça passe par le Conseil national du culte numérique qui lui rendait son rapport quelques jours après le séminaire du gouvernement. Donc c'est bien le gouvernement d'innonce. On verra quand le conseil bidule aura rendu son rapport. Le rapport est arrivé après le séminaire. Voilà, on a fait en sorte que ce texte-là circule. Le Conseil national du numérique lui propose d'inscrire la défense des libertés sur Internet dans le texte Minitel Télévision, dit loi de 1986 sur l'audiovisuel. Je vous invite à lire l'article 1 de la loi de 1986 sur l'audiovisuel. Il dit que les communications sur les réseaux électroniques sont libres, sauf. Et puis là, il y a 4 lignes de sauf. Et alors il y a de tout dedans, hein. Tout ce que vous pouvez imaginer. Et en fait, si on applique la loi de 1986 à Internet, alors le Figaro devra réserver 50% de son espace politique à la libre pensée du PS. Et ça, je vous garantis, ça va pas être simple. Moi je dis que le 30% de l'espace éditorial de u-m-p.org réservé au Parti Socialiste, ça va être très drôle, et 30% de parti-socialiste.fr réservé à l'UMP, ça va nous faire mourir de rire. Ben oui, mais égalité des temps de parole, mes enfants, tout ça, ça va être très drôle. Gouv.fr devra avoir 40% de son audience réservée à l'opposition, des trucs de dingue. Mais c'est bon, voilà, ça c'était l'idée brillante du Conseil national du numérique. Donc ça c'est l'idée de la première étape, dire ok, on va poser dans la loi la liberté d'expression. Il y a une deuxième étape qui est de dire maintenant on peut s'amuser à définir la neutralité du net. Avant on pouvait pas, parce qu'avant on faisait toujours une négociation avec un seul point dur. Il y a un point dur sur lequel tout le monde est d'accord, il faut pas aller au-delà, qui est il faut pas que les opérateurs meurent. Si tous les acteurs économiques de la chaîne meurent, il n'y a plus rien à définir. Et c'est le seul point dur dans les négociations, il en manque un deuxième. Donc l'idée, c'est maintenant, une fois qu'un premier texte est posé qui protège la liberté d'expression, on puisse passer un texte sur la neutralité du net, qui la définisse, qui l'encadre, qui impose, qui dise, voilà, les opérateurs ont le droit d'eux, n'ont pas le droit d'eux, les hébergeurs ont le droit d'eux, n'ont pas le droit d'eux, les intermédiaires techniques ont le droit d'eux, n'ont pas le droit d'eux, les marchands d'applications pour téléphone ont le droit d'eux, n'ont pas le droit d'eux, etc., etc., etc. Et ensuite, il y a un troisième volet qui est purement de l'ordre du réglementaire et qui est de régler les quelques petits problèmes techniques qui empêchent l'ARCEP d'agir en moins de 35 ans. Ça, c'est pas très compliqué à résoudre. Sylvain, je t'ai vu t'emparer du micro.
Ouais, parce que, en fait, bêtement, comme tu disais qu'il n'y avait rien qui punissait les entraves à la liberté d'expression, j'ai tapé sur un moteur de recherche dont je tairai le nom par pudeur, et je suis tombé sur un article du code pénal qui parle spécifiquement de ça, alors je voulais savoir...
Le 431 quelque chose.
Sans regarder, tirer un.
J'ai bon ?
Ouais.
Alors, lui, il entrave... Alors, il punit le fait d'entraver par la menace ou la violence la liberté d'expression des assemblées. Donc par exemple, si quelqu'un venait s'opposer par la violence à la tenue de l'Assemblée Générale de FDN, je dis bien par la violence ou la menace, hein, on n'est pas par le fait de couper un site web, il aurait un problème pénal. Et si tu regardes, c'est dans le chapitre du code pénal sur... Non, c'est violence physique. C'est dans le chapitre du code pénal sur la sécurité de l'État. C'est dans le chapitre du code pénal qui dit que si tu essayes d'empêcher l'Assemblée nationale de délibérer par la violence ou la menace, tu vas aller en prison. Ça dit pas que toi, tu as le droit de parler. Regarde bien l'endroit où il est. Il est pas au bon endroit dans le code pénal. Il n'est pas dans le bon chapitre. Et il définit vraiment pas ce qu'il faut. Le seul texte qui protège la liberté d'expression en France, c'est la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Et elle protège la liberté d'expression des gens qui ont une carte de journaliste. Et donc l'article exact, c'est 431.1, je crois. Oui, c'est ça, 431.1. Il y a des questions sur les sujets de neutralité du net, tout ça.
Est-ce que tu as un espoir quelconque qu'il y ait un retour dans la loi? Parce que moi, depuis le temps, je suis devenu super désabusé. Et pour moi, ça ne retombera jamais dans la loi. Donc, en gros, c'est soit on met en place des moyens techniques pour contourner, soit il ne se passera rien.
C'est une vraie question compliquée. Est-ce que l'intérêt général peut gagner contre les lobbies? Oui, au moins en partie. Est-ce qu'on finira par avoir une loi sur la neutralité du net? Ils y sont arrivés aux Pays-Bas, ils y sont arrivés, je suis en train de chercher l'autre pays, en Slovénie. Je veux dire, voilà, au Chili. Ben voilà, on n'est pas infiniment moins civilisé que le Chili ou la Slovénie ou les Pays-Bas, on devrait réussir à quelque chose. Après, est-ce que ça se fera pendant la législature de François Normal ou est-ce que ça se fera pendant la législature de Nicolas II ou de Marine Première, j'en sais rien. Tu sais, la loi sur la liberté de la presse, alors comment dire, Gutenberg 1445, 1881, ça nous y fait 440 ans. Record à battre, on peut faire moins quand même. Là, si on fait 430 cette fois-ci, on a bon.
On devrait faire plus aussi.
Donc en partant de 1960, ça nous amène à 2400 quelque chose.
Je suis moins optimiste que toi.
Ah.
Tu diras comment ça se passe.
Juste un petit commentaire. Justement, si c'est pas mis sur dans la loi et que ça devient une notion bien plus comprise du grand public, cette neutralité, ces données personnelles, où elles sont stockées, ce qu'on en fait, ça donne aussi des opportunités à des acteurs à se positionner sur ce créneau-là. Et faire du business ou du commercial ou de l'associatif, parce que c'est maltraité ou c'est compris que c'est maltraité par les gros opérateurs. Voilà. Et c'est même une opportunité.
Oui, mais c'est. Ça pourrait finir dans la loi, c'est pas complètement exclu. En fait, la grande question est de trouver, c'est toujours pareil, il faut que les politiques aient intérêt à le faire. Si en mettant la neutralité du net dans la loi, ils étaient certains de résorber le chômage en 6 mois, demain matin, elle est dedans. Demain matin, certain. Parce que ça leur donnerait un avantage politique tellement colossal, une certitude absolue d'être réélu, enfin, un truc de dingue. Il se trouve que voilà, ça apporte des avantages plus mitigés que ça, qui sont permettre une forme de croissance économique liée au numérique qui pour le moment fonctionne assez bien partout dans le monde sauf chez nous. Ça nous permettrait de regagner un certain nombre d'éléments de compétitivité sur ces questions-là, de regagner une présence dans le monde des réseaux qu'on n'a pas tout à fait assez, etc., etc. Plus quelques avantages tout à fait anecdotiques comme le fait de protéger la liberté d'expression, ce qui sert à rien économiquement. Et voilà, l'ordre de grandeur est là. Quel est le gain? Le politique qui va se mouiller pour faire voter une loi contre les lobbies, qu'est-ce qu'il va y gagner? Et c'est pas facile. La grande question est de lui apporter suffisamment de billes pour que, au minimum, il prenne pas des pains dans la tête et, idéalement, il puisse gagner quelque chose. Et donc, pour le moment, le dossier, savoir s'il faut une loi pour protéger la liberté d'expression sur les réseaux, et donc s'il faut une loi sur le sujet neutralité, liberté d'expression, serait traité par Christiane Taubira, Manuel Valls et Fleur Pellerin. Et forcément, parce que c'est du pénal, et donc c'est le ministre de la Justice qui s'en occupe. Les libertés publiques, c'est le ministère de la Justice. Pellerin, ça n'est que l'économie numérique, et la question neutralité du net, liberté d'expression, n'est pas une question économique.
Mais justement, au niveau du gouvernement, est-ce que le problème fondamental, ce ne soit pas que justement Internet ne soit traité soit qu'en termes d'économie numérique, soit qu'en termes de culture, parce que c'est toujours les deux ministères qu'on voit aux premières loges quand on parle d'Internet dans les débats publics?
Ben, Internet, c'est le rayon de distribution des produits de Sony Vivendi. Et le marché des tablettes iPadophones, non? C'est pas que ça. Mais oui, c'est un problème clé. Si nos politiques avaient compris ce qui est en train de se passer dans la société, si nos politiques avaient compris... Ça, c'était le long débat téléphonique que j'ai eu avec Yvan hier soir, je crois. Les politiques, ils ne gèrent pas... ils gèrent le monde qui existe. C'est pas eux qui changent le monde. Et ils sont pas là pour le changer. Et ils sont pas là pour dire comment le monde doit être. Ils gèrent le monde tel qu'il est. Si le monde est essentiellement antisémite et raciste, les politiques sont antisémites et racistes. Si le monde est essentiellement capitaliste, les politiques sont essentiellement capitalistes. Ils gèrent le monde tel qu'il est et ils font avec. C'est pas eux qui disent comment le monde évolue. Internet est en train de changer des structures fondamentales de la société. La société s'est dotée d'Internet pour pouvoir changer certaines de ses structures fondamentales. C'est dans cet ordre-là, hein, c'est pas dans l'autre sens. Les politiques prendront en compte le phénomène une fois qu'il sera devenu évident, c'est-à-dire une fois que le monde aura changé. Pour le moment, le changement n'est pas tout à fait évident pour atteindre les énarques de 55 à 60 ans. Ils sont un petit peu trop vieux et un petit peu trop coupés de la société. Les énarques de 40 ans comprennent, parce qu'ils sont un peu moins âgés. Les pas énarques de 60 ans comprennent, parce qu'ils sont pas trop coupés du monde. Mais les gens qui ont le double handicap sont un peu éloignés. Et quand en plus ils sont ministres donc dans les palais dorés de la République, donc ne sortent pas du 7e et du 8e arrondissement de Paris, donc considèrent qu'ils sont allés dans le tiers-monde quand ils ont été à Belleville, ils sont pas vraiment bien connectés dans la même société que les autres. Ça n'aide pas.
Oui, donc Benjamin Coguerel, donc membre de FDN. Justement, quand on parlait tout à l'heure de valorisation des l'importance des données privées, des données personnelles, et qu'on parlait d'énarques et qu'on parlait de justement, il y a un rapport là que j'ai entendu parler très récemment, là, le Colin et Colin en fiscalité numérique, qui justement, en plus, donc c'est des énarques. Donc ils voulaient justement faire des taxes, enfin faire que toute l'économie sur le traitement des données, le fait qu'on utilise pas mal de sites et de services, on génère des données qui ont de la valeur, qui en plus ont tendance à partir à l'étranger, qui ne sont pas imposées, qui donc, ne participent pas tellement à l'économie nationale. Donc ils voulaient chercher à avoir un moyen de pouvoir imposer ces sociétés-là. Et on voyait, pour ce que j'ai pu voir de ce que disait par exemple Nicolas Colin, il avait vraiment dans l'idée de... Bon, c'est un début pour faire prendre conscience que les données ont beaucoup de valeur. D'avoir des développements économiques autres que simplement la publicité. J'ai l'impression que pour la question de la neutralité, parce que là ça touche directement à des rentrées possibles pour l'État, donc c'est très intéressant pour l'État. Si on peut coller ça avec les questions fondamentales de neutralité, je pense qu'il y a un lien. Je pense qu'il avait aussi des idées dans la tête.
Moi, de Colin et Colin, je n'ai rencontré que Colin, pas l'autre. j'ai pas lu le rapport parce que 180 pages écrit en petit caractère, j'avais pas le temps. Bon, c'est le genre de volume qu'il faut que j'imprime pour le lire. Moi, j'ai du mal à lire 180 pages derrière un écran. Puis on lit mieux avec un stylo à la main, ce genre de choses. Voilà, je n'ai pas lu le rapport Colin et Colin. Je me méfie. Dans ces bêtises-là, le diable est dans les détails. Donc, juste une synthèse. Enfin, j'ai lu ce qu'en dit la presse. Et ce qu'en dit la presse, j'ai pas confiance. Vu ce qu'ils disent quand ils parlent d'Internet... je me dis que quand il parle d'autre chose, il doit être à peu près aussi brillant, donc j'ai pas confiance. Donc celui des deux Colins que j'ai croisé fait partie des gens qui, bien que énarque et inspecteur général des finances, a parfaitement bien compris les questions autour du numérique et de l'importance d'Internet, etc., etc. Donc lui, il a comme mot d'excuse qu'il a 35 ans. Il n'est pas encore complètement coupé de la société. Il n'est pas encore devenu ministre, donc il parle encore avec des vrais gens. Je suis sûr, même des fois, il prend le métro. Je ne sais pas ce que dit le rapport en question, mais transformer la question de la neutralité en question fiscale est, à mon avis, une mauvaise idée. Donc, il y a un vrai intérêt dans l'approche qu'ils ont de vouloir taxer les données personnelles. Et alors, encore une fois, j'ai pas lu, donc je maîtrise pas le détail et je me méfie. Mais il est vrai qu'à l'heure actuelle, la seule valeur de Facebook, en fait des réseaux sociaux, ce sont les données personnelles que les gens y publient. La seule chose qui a de la valeur, c'est ça. Et quand vous voulez taxer, ben, il faut bien taxer à l'endroit où il y a de la valeur et pas à l'endroit où il n'y en a pas. C'est-à-dire que si vous voulez taxer, vous pouvez essayer de taxer la vente de lait maternel en poudre, mais la vente de lait au sein, ça ne va pas être simple. C'est comme ça. Il faut trouver l'endroit où il y a une valeur marchande. Et il se trouve qu'à l'heure actuelle, les données personnelles, les profils d'identification, le profilage marketing, tout ça représente une valeur colossale et une valeur croissante dans l'économie du numérique et des réseaux. Et donc, voilà, le fait qu'ils disent c'est là qu'on veut taxer, c'est une preuve que les données personnelles ont de la valeur. Est-ce que ça plaide pour autant pour la présence d'un réseau neutre ? C'est pas clair, parce qu'une fois qu'on a dit que les données ont de la valeur, il y a la question de qui en est propriétaire. Facebook va te répondre que s'il paye un impôt dessus, c'est que ça lui appartient. Donc on a bien officialisé le fait que tu lui as vendu ton âme. Et que bah, si ça lui appartient, il en fait bien ce qu'il veut et qu'il n'a aucune raison de les respecter, tes données. Donc c'est très bizarre. Dans le mode de raisonnement, pour ça que je suis très sceptique et que voilà, tant que j'aurai pas creusé un peu, j'ai pas un avis super, super clair là-dessus.
Sylvain Itier, 85% des revenus de Facebook, ça vient de la pub qu'ils ont, qui vendent à des publicitaires les informations qu'on leur donne. Donc ça prouve la valeur de tout ça, quoi.
Oui. Ça dit pas que ça doit rester sous ton contrôle ou le leur, hein.
Oui, juste pour rebondir, c'était donc une des notions qu'ils ont voulu dégager, parce qu'ils voulaient nommer quelque chose, et ils disaient qu'il y avait 4-5 auteurs qui appelaient ça différemment. La notion qu'ils veulent mettre devant le ministre, la notion de justement de travail gratuit. C'est l'idée que quand on utilise des services et compagnie, même, on peut même aller jusqu'à dire que dès qu'on parle à Google, on lui parle, hein, donc on travaille pour Google, on lui dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous intéresse, je ne sais quoi. Donc voilà, ils veulent mettre... Pour que ça parle aux politiques, ils veulent parler en ce moment de travail gratuit. Bon, ils mettent entre guillemets parce qu'ils savent que ça pose un peu problème, mais voilà. Alors quelque chose qui, une activité qui n'est pas valorisée, et voir si du coup on lui accorde de l'importance. Bon, on commence par la fiscaliser, voir si on ne peut pas récupérer de l'argent, mais à partir du moment où on considère que c'est quelque chose, ah, tout de suite, peut-être que du coup ça va, qui s'en charge, enfin la neutralité, tout de suite, enfin il y a. C'est pas directement ce qui est visé, bien sûr, mais bah, on voit que, à partir du moment où on valorise les données, on accorde l'importance qui mérite aux données. Après, on peut il y a une case qui s'allume, et après, on peut peut-être commencer à parler de ces questions-là, quoi.
Ouais, pas clair. Je me méfie. Le raisonnement peut très très facilement se retourner.
Ouais, faut voir.
À partir du moment où on accorde une valeur à ces données, ça veut dire que, puisqu'elles ont une valeur, elles ont un propriétaire. Puisqu'elles ont un propriétaire, il en fait bien ce qu'il veut. Donc, il n'y a plus de neutralité. Le propriétaire des données, c'est Facebook, et il passe les accords qu'il veut avec les opérateurs de réseau pour transporter les données qui sont les siennes, puisque ces données sont son capital. Donc, tu vois, je me méfie énormément de... faut faire très attention, les grilles de lecture se retournent, et les lobbyistes sont doués pour ça. Je ne pense pas que ce soit l'approche de Colin et Colin, hein.
Il faut s'investir de ces questions-là, justement, pour faire que... Est-ce qu'on peut aussi voir que le travail qui a été fait... Bah, personne, mais peut-être que c'est ses données personnelles, donc elles devraient lui appartenir. Donc le fait qu'on l'externalise, je sais pas, il y a peut-être. On va voir ce qui va se dire derrière, mais il y a des questions, quoi.
Bonjour, Benjamin Sattag à nouveau. Je prends un peu la parole au nom de la Quadrature du Net, dont je suis un des cofondateurs. Ce que je sais, c'est qu'au niveau de la Quadrature, ce qu'on fait, nous, pour la neutralité du net, c'est pas du tout d'essayer d'aller vers les histoires fiscales de ces aspects-là. C'est vraiment d'aller sur les aspects de liberté d'expression, liberté de communication, parce qu'ils sont déjà plus ou moins écrits dans la loi, ils sont dans les déclarations des droits de l'homme et compagnie. On peut donc les défendre valablement, et c'est probablement là où on aura le moins de risques de se faire retourner. Et d'expérience, c'est vrai que c'est plus que leur métier, enfin c'est plus que ce qu'ils font tout le temps, c'est vraiment leur métier à ces lobbyistes que de retourner les raisonnements. Et c'est ce qu'on essaie de faire nous aussi d'ailleurs, de retourner les leurs. Et donc en gros, voilà, on préfère aller vraiment plus sur ces aspects-là qui nous paraissent plus sûrs sur le long terme. Et voilà, sur le côté, dans 300 ans, on a plus de chances d'aller avec ça. Mais il est vrai que si la brèche s'ouvre, on sera là, voilà, ça c'est sûr. C'est évidemment, s'il y a une loi qui s'écrit sur ce thème... Vous pouvez attendre à ce qu'on propose des amendements et à ce qu'on agisse aussi dans ce sens, évidemment.
Vincent, FDN. Alors, je suis à fond pour la neutralité du net, mais... Oui, oui. non, pas tous. Mais il y a un volet qu'on entend assez peu parler sur Internet, et que ce serait peut-être bien que FDN aussi s'en empare, c'est la pollution d'Internet. Je ne parle pas de la pollution numérique, mais de la vraie pollution physique. Quand on reçoit une lettre de publicité, on sait que c'est de la pollution, que ça gaspille des forêts, tout ça. Mais Internet pollue énormément. Internet pollue de plus en plus par toute la consommation d'énergie. Le spam en fait partie. Un mail pollue. On a beau se croire que c'est du numérique, juste un simple mail pollue. Est-ce que FDN, à un moment donné, va aussi s'emparer de ces questions d'environnement et d'Internet ?
Est-ce que quelqu'un d'autre que... Il se trouve que j'ai répondu à peu près à la même question l'an dernier, donc, ou il y a 2 ans. Est-ce que quelqu'un d'autre que moi veut y répondre ?
Alors moi, la première réponse, ce serait comme beaucoup des projets qui se font dans toutes les associations, ils sont portés par ceux qui les portent. Donc j'aurais tendance à dire, aide-nous à porter un tel projet éventuellement. Je pense que ça peut faire partie des attributs de FDN que de montrer ces aspects du numérique. Mais voilà, je pense qu'il sera porté par ceux qui le porteront. Quoi. Voilà. Comme le projet téléphonie, par exemple.
Moi, c'est Lunar. J'ai l'impression que... c'est une vraie question, hein, c'est pas du tout pour pas le dire, mais j'ai l'impression que la vision d'Internet que défend FDN, déjà, et ben, c'est pas celle qui pousse Google ou Facebook à construire des immenses data centers dans l'Oregon. Et c'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est délirant la quantité de disques durs et de serveurs qu'ils veulent absolument mettre au même endroit. Et ça, clairement, et en fait, la consommation électrique énergétique de ça, elle est délirante. Et à un moment donné, la vision d'un Internet décentralisé où des machines comme des Raspberry Pi nous servent à recevoir notre courrier. Moi, j'ai le sentiment que c'est une vision d'une société numérique qui est beaucoup moins polluante, ou en tout cas où la pollution environnementale, elle est plus liée à l'environnement, là où les gens sont, quoi. Après, c'est sûr que, et bon, ça c'est un aspect. L'aspect, c'est que j'ai l'impression qu'on a quand même une approche qui est beaucoup plus celle de la bidouille et de recyclage des composants informatiques de façon un peu générale. Après, je veux dire, c'est ridicule, FDN, c'est 600 personnes, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est sur Facebook et Google qu'il faut taper, vraiment, là. J'ai l'impression. Ou alors c'est sur Sony, c'est sur Samsung, c'est sur tous les producteurs de composants électroniques qui sont dans les pratiques de renouveler sans cesse le matos. Il y a aussi, enfin, je veux dire. À un moment donné, on pourrait effectivement se dire qu'on part pour les actions comme ça, mais j'aurais envie de participer à d'autres structures pour faire ce genre de choses plutôt que FDN, peut-être. Je sais pas.
Ouais, je crois pas qu'ils mettaient FDN comme étant le grand pollueur de la planète. Hein.
Alors, pour abonder un petit peu dans ton sens, c'est certain, quand on met 12 millions de machines dans une même salle, ça chauffe. Et pour que la machine fonctionne, il faut climatiser et ça consomme énormément d'électricité. D'un autre côté, quand on prend son petit Raspberry Pi, qu'on le met dans sa cuisine, on n'a pas besoin de clim. Et ça consomme que dalle. Donc en termes d'écologie, ce qui est important de comprendre, en fait, c'est qu'il ne faut pas massifier les choses. Au contraire, il faut les disperser. C'est le principe d'Internet même, en fait. Ça consiste à dire, plutôt que de mettre toutes les données à un seul endroit, on les met chacun dans sa cuisine, dans son garage, dans un placard à chaussettes, vous les mettez partout. Et donc du coup, en distribuant un petit peu toutes les ressources, en distribuant tous les besoins, en distribuant toutes ces données, du coup, on distribue les besoins en énergie et surtout, on les réduit énormément.
C'est un des points clés dans les histoires de pollution. En fait, c'est toujours la dose qui fait le poison. On arrive toujours à ça. Les problèmes de production d'énergie, sont pas liées à une quantité d'énergie. Produire un gigawatt, c'est pas compliqué. Vous laissez 10 millions d'humains assis à rien faire, ça produit un gigawatt. C'est pas dur, hein. Un humain, ça produit en moyenne à peu près 100 watts par jour. Je parle juste de chaleur, hein. Vous restez assis, au repos, calme, sans vous fatiguer, vous avez produit 100 watts. On est 10 millions à être assis, on a produit un gigawatt, il n'y a pas besoin de déplacer une centrale thermonucléaire pour ça. Ce qui est compliqué, c'est de produire un gigawatt dans un espace tout petit pour le distribuer dans deux usines et trois immeubles. Ça, c'est affreux. Ça, c'est compliqué. Et c'est ça qui crée des problèmes de pollution, de transport d'énergie. C'est quand on produit énormément d'énergie à un endroit ou quand on consomme énormément d'énergie à un endroit. Et donc le simple fait de distribuer les centres de production et de consommation de données et donc les centres de production et de consommation d'énergie règle une très grande partie des problèmes environnementaux. Et donc le principal problème, il y a deux problèmes majeurs, mais c'est déjà ce qui a été dit, il y a deux problèmes majeurs environnementaux en lien avec Internet. Le premier, ce sont les points d'hyperconcentration et de miniaturisation du réseau. Facebook, Google, voilà, on les a. Tout le clou, comme on dit de nos jours. Ben non, c'est pas Internet, ça, c'est le Minitel. Mais le problème, voilà, ça c'est un des problèmes majeurs. Et le deuxième est lié aux équipementiers. Comment est-ce que on recycle l'iPhone version 4.5 quand on achète la version 4.6 dont la coque est bleue? Alors, on le recycle sur eBay, mais ça recycle qu'un temps. Et comment est-ce que je recycle la merde en plastique là qui est devant moi et qui a une durée de vie approximative de 5 ans, dans le meilleur des cas? Voilà, ça c'est des vraies questions, mais ce sont les questions pour les équipementiers. Donc, comme FDN ne fait pas dans l'équipementier, on ne peut pas faire grand-chose. Mais pour moi, l'approche que FDN défend d'Internet règle tout ce qu'on peut régler d'écologie en matière de réseau. En disant, il faut distribuer les choses, répartir les choses. Et il faut repérer que c'est aussi un facteur d'amélioration écologique pour le reste. Parce que c'est ce qui permet de télétravailler, donc de se non-déplacer, et donc d'éviter de créer un nœud de concentration comme la Défense. Le réseau Internet, une fois qu'il est convenablement réparti, permet de répartir la production et la consommation, permet de consommer local tout en continuant à communiquer de manière globale et à former une société humaine qui dépasse l'échelle d'un village, etc., etc. En fait, Internet est une des réponses à la question écologique. Et le simple fait de faire du réseau proprement contribue à ce mode de fonctionnement.
Bonjour, Jesse, adhérent, simple adhérent. En fait, il y a un troisième point pour propos de distribution de données et de matériel, c'est l'infrastructure réseau elle-même. Et là, en fait, dans ce cadre-là, quid des gros opérateurs de ceux qui font en fait le transit, quoi. Ça, c'est toujours concentré. Ça n'existe pas d'opérateur distributif là-dedans.
Non, c'est pas concentré. C'est qu'il faut comprendre le terme de concentration. Tirer une fibre optique de Aix sur Vienne à Milwaukee, c'est idiot. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Pour le coup, écologiquement, poser 700 000 fibres en transatlantique, ça va être moyen. S'arranger pour que les transatlantiques passent toutes plus ou moins dans les 4 ou 5 chemins habituels qui sont tout le temps les mêmes, et plutôt que de poser les fibres une par une, les poser par paquet de 400 dans un seul câble, écologiquement, c'est plutôt moins débile. Ce que font les transitaires, c'est très simple, c'est de transporter en fait des données. Et leur réseau est pas spécialement centralisé. Quand tu discutes avec Tata Telecom, qui est un opérateur indien, quand tu es interconnecté avec Tata Telecom, ce qui est notre cas, tes données ne transitent pas par l'Inde. Quand un paquet IP venant de FDN Paris veut aller chez YouTube New York en passant par Tata Telecom, il transite pas par New Delhi. C'est-à-dire que Tata Télécom, ils ont un réseau qui est non centré. Alors que Orange, quand ils veulent aller de Marseille à Lyon, ils passent par Paris. Oh. Ça reste très très vrai. Et voilà, ça, c'est idiot. Quand un abonné Orange veut parler à un abonné Free, l'un à Lyon, l'autre à Marseille, c'est certain, ça passe par Paris. Parce qu'ils sont incapables de... Quand ils sont dans la même ville, des fois, ils ont quelques accords d'interconnexion qui pourraient peut-être, dans certaines villes, permettre éventuellement que... Mais voilà, que ça transite par Lyon plutôt que transiter par Paris. Mais voilà, c'est... Les grands transitaires sont pas des opérateurs ultra centralisés. Ils ont un réseau qui est très décentré. Mais de la même manière que tu mailles un territoire quand tu mailles les habitations d'un village, que tu mailles un territoire quand tu mailles entre eux les villages du département, à un moment, il faut mailler l'échelle au-dessus. Et là où le réseau fonctionne de manière acentrée, c'est dans le fait que tous les maillages existent sans point de centralisation. Tu as deux façons de mailler un département. L'un qui est de dire je mets le centre des télécoms au chef-lieu de département et puis je tire des lignes droites vers tous les villages. Ça, c'est le modèle SNCF standard breveté, 1880. Et puis il y a le modèle internet qui est de dire je vais tirer des lignes entre tous les villages voisins. Et quand il y a un village qui est voisin avec cinq autres, et ben, il aura cinq lignes. Et on va tout mailler. Ça, c'est le modèle Wi-Fi full mesh. Copyright réseau citoyen Bruxelles 1999. Voilà, c'est ça le truc. Et donc, ces opérateurs-là, ils ont tendance à tout mailler. C'est-à-dire que quand un tier one est présent dans des pays, il ne ramène pas tout chez lui, il fait des liens de partout vers partout dans tous les sens. Donc voilà, c'est pas centralisateur ça. C'est juste que les liaisons transatlantiques, bah, il vaut mieux les faire partir de Lannion plutôt que de Metz ou de Montpellier. C'est tout. Ouais, tu mets un grand câble, tu passes par Schnorr. Tu fais transiter à Dunkerque.
Stéphane Asquat, abonné et bénévole FDN. Je ne partage pas complètement votre optimisme. Je pense que le modèle défendu par FDN ne sera pas automatiquement aussi écologique que vous le dites. Il faudra vraiment prendre tout en compte parce que c'est comme aussi facteur d'économie le fait de centraliser des choses, qu'on le veuille ou non, malheureusement. Ça va pas dans le sens de ce qu'on veut, mais il y a aussi comme de ce point de vue-là un avantage. Si chacun a ses équipements chez lui, il faut compter la fabrication de tous ces équipements. Et l'alimentation électrique qui va être séparée, on risque de perdre comme en efficacité. Donc le bilan global des deux solutions, il est très très compliqué. Je ne serai pas aussi formel que vous l'êtes, aussi sûr de moi. Et en plus, donc, bah, si jamais on avait cette question-là justement chez FDN, ça poserait peut-être un problème parce que ça remettrait peut-être en cause certains choix de l'association. Parce que par exemple, est-ce qu'il faut aller sur la fibre ? D'un point de vue écologique, c'est pas trop aller dans le bon sens, quoi, d'aller vers toujours plus de débit. C'est pareil, téléphoner par Internet, d'un point de vue écologique, c'est une hérésie. Pourtant, presque tout le monde le fait. Donc,
je veux comprendre. Qu'est-ce que ça a d'écologiquement hérétique ?
Ah ben, ça consomme beaucoup plus que les centraux analogiques. Parce que là, tu passes par du IP qui rajoute des couches. Il n'a jamais été fait pour ça, IP. Donc, ça t'oblige à avoir ton appareil allumé chez toi.
Tu mélanges trop de concepts qui ne vont pas ensemble. On enfile des couches. Oui, on empile des couches logicielles. C'est pas le logiciel qui consomme du courant, c'est le matériel.
Ah, plus du logiciel tourne, plus il consomme du matériel. C'est obligé.
Oui et non. La quantité de code logiciel, enfin la quantité de watts consommés par une portion de code logiciel en 2012 n'a rien à voir avec ce que consommait la même portion de logiciel en quantité d'électricité en 1992. En 20 ans, on a divisé par 50 ou 100 la consommation électrique pour faire tourner le même bout de code logiciel.
Oui, mais l'appareil qui consomme peu d'électricité chez la personne, il va au contraire polluer beaucoup plus lors de sa fabrication. Il faut tenir en compte de ça. Et en plus, ça veut dire qu'il faut avoir un routeur en permanence allumé chez soi pour la téléphonie, alors qu'un téléphone classique RTC, il était alimenté par le réseau, par des courants très faibles.
Oui. Tu sais comment il est alimenté, le téléphone RTC ? Par le réseau de cuivre.
Oui.
C'est en fait par du courant qui passe son temps à chauffer le cuivre au lieu d'alimenter le téléphone. Il aurait été alimenté par une batterie, il aurait consommé infiniment moins.
Mais après, je...
Attention,
mais justement, je suis en train de dire que c'est compliqué. Non, mais on est d'accord, je suis en train de dire que c'est très compliqué et qu'il faut vraiment prendre tout en compte. Et que les choses ne sont pas si simples que vous semblez le présenter.
Mais les gens qui... Ceux des gens que je connais qui bossent sur ces sujets-là arrivent toujours à la conclusion que ce qui coûte le plus cher, c'est pas tellement de consommer plus ou de consommer moins. Ce qui coûte le plus cher, c'est de consommer de manière centralisée. Produire 100 watts d'énergie, c'est l'exemple que je donnais au départ, de manière parfaitement distribuée, produire un gigawatt, c'est très simple. C'est 100 watts d'énergie par personne, on est 10 millions assis à rien faire, on a produit notre gigawatt. Le fait de distribuer les choses, dissiper un gigawatt d'énergie thermique dans l'atmosphère, c'est rien du tout. C'est ce qu'on fait quand on est assis. C'est pas grave, écologiquement c'est rien. C'est pas dangereux. Par contre, faire cramer du pétrole pour réussir à produire un gigawatt pour l'usine d'aluminium d'à côté et dissiper tout le gaz carbonique de la chose dans l'atmosphère, ça c'est pas neutre. En fait, la quantité d'énergie en watts mise en œuvre n'est pas d'une très grande importance. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si on la concentre et c'est de savoir comment on la produit. Pour alimenter les data centers monstrueux de Google ou de Facebook, on n'arrivera jamais à le faire avec des modèles de production d'énergie complètement neutres, complètement renouvelables. Alimenter un data center avec une éolienne, c'est monstrueux en termes d'investissement. Il faut en fait un champ d'éoliennes, ça marche que à certaines heures, etc. etc., etc. Alimenter un petit ordinateur d'une puissance honorable, hein, de la puissance de n'importe lequel des smartphones qu'il y a dans la salle, ce qui est déjà très honorable comme puissance de feu d'ordinateur, hein. Ça se fait avec à peu près rien comme énergie. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui...
Et encore une fois, tu ne tiens pas compte du coût de production. Les téléphones, c'est une horreur. Ça détruit les forêts. Ça pollue je ne sais pas combien d'années de consommation électrique rien que pour la fabrication. Et il faut tenir compte de ça. Et puis, tu pars donc du principe que forcément, les gens vont moins utiliser, moins être fichés, donc moins aller sur des réseaux qu'on n'aime pas. Donc ça veut dire que comment tu vas convaincre les gens d'arrêter de... C'est pas si simple, quoi, de forcer les gens à vivre comme nous avec un autre Internet.
Si on était capable de ça, on aurait beaucoup moins de problèmes.
Ouais. Ça réglerait
tout. On aurait réglé déjà plein de choses. Par ailleurs, quand tu concentres tes choses, tu concentres aussi des disques durs. Enfin, le nombre de machines que tu aurais sur le réseau serait exactement le même nombre que les disques durs que tu aurais dans tes points centralisés. Enfin, on a des choses qui sont assez comparables finalement. Moi je pense que dans tous les cas, c'est vachement plus intéressant d'avoir ton centre d'émission à côté de chez toi qu'un centre d'émission centralisé chez quelqu'un d'autre. La question elle est là. Elle est plus là que sur des questions écologiques.
À la condition que tu aies la production aussi à côté de chez toi.
Oui, bien sûr. C'est pas le monde dans lequel on vit, je suis bien d'accord.
Je fais juste un petit commentaire. Ce qui commence à se pressentir, c'est qu'effectivement, il ne faut pas négliger tout ce qui est chez toi, ce qui est dans le réseau, les gros data centers. Mais la tendance actuelle, c'est plutôt, et ça rejoint un petit peu la question des transits, je sens en venir qu'il y aura beaucoup plus de data centers et d'hébergement, ce qui sont deux choses un petit peu différentes, beaucoup plus locaux, du style data centers départementaux, régionaux, avec un ratio... énergie consommée pour les équipements et énergie globale qui s'approche de 1,1, donc beaucoup moins de pertes dans la climatisation et ainsi de suite, avec aussi l'interconnexion, les transits et des peerings régionaux par exemple, pour pas passer par Paris ou Amsterdam, donc là on fait du gain. Et là on fait aussi du gain, c'est quand on voit la puissance dans les centraux téléphoniques autrefois, parce qu'il y avait moins chez le client, mais il y en avait beaucoup plus dans le central. Maintenant, c'est des grands espaces qui sont libérés, l'équipement est beaucoup plus petit, consomme beaucoup moins par abonné, et on pourrait même récupérer la climatisation, l'énergie de ces gros centraux pour faire de l'hébergement localisé. Et après, notre notion, c'est que si on fait des travaux et l'innovation, on peut consommer beaucoup moins, par exemple, sur la fibre que sur le cuivre. Et aussi, en plus, la fibre peut améliorer, réduire les transports, améliorer le télétravail, beaucoup plus de localisation. Par exemple, un exemple, si on fait, alors je sais que c'est pas forcément bien vu, mais si on fait du PON plutôt que de faire du point-à-point, ça consomme au moins 20 fois moins que le point-à-point, le PON, puisqu'on a un équipement qui fait de la concentration en passif, et c'est pas le soft qui coûte cher, c'est l'interface physique, et comme on a moins d'interface physique, rien que de faire du PON, ça consomme 20 fois moins, il y a moins de problèmes pour héberger les équipements, il y a moins de problèmes pour la climatisation, et négocier notamment avec le voisinage. Et c'était ce que j'avais indiqué quand j'étais chez Orange en 2007, Free va se planter, parce que héberger des gros équipements consommateurs d'énergie à un point central, le répartiteur, ils vont exploser en vol, ça va coûter cher, et il va y avoir des oppositions, et alors que les opérateurs plus économes, là on rejoint le point économique, auront un avantage certain, et tout en étant plus économiques au niveau développement durable. Quoi.
Sylvain Itier, un problème que je vois avec l'énergie, c'est le transporter, la transporter. Si on la stocker aussi, mais la transporter, dans les fils à haute tension qui passent, on perd beaucoup d'énergie avec la résistance qui fait de la chaleur et à l'électromagnétisme qui gêne les personnes qui habitent dessous. Donc, si on pouvait éviter de les transporter, c'est toujours ça de gagner, je pense. Je sais pas quelle proportion c'est, je suis pas spécialiste. Et puis, tous nos téléphones portables et nos ordinateurs qui passent 99% de leur temps à attendre, sauf quand on compile, s'ils pouvaient servir au lieu que tout soit centralisé, c'est une autre manière de voir les choses qui pourrait peut-être être plus écologique, par exemple. Si on faisait des processeurs ARM au lieu des machins qui ont besoin de dissipateurs de chez Intel, c'est une autre manière d'être plus écologique aussi. Je lance des arguments, voilà.
Pour info, les pertes en ligne sur les réseaux électriques, il me semble que c'est entre un tiers et la moitié. Les pertes en ligne sur les réseaux de distribution électrique, il me semble que c'est entre un tiers et la moitié. Optique à chaque bout et allumer la fibre. Et donc, et où la différenciation entre les abonnés se fait de manière entièrement passive sur des systèmes de prismes et de changement de couleur. Et ça permet d'avoir en fait l'équipement qui émet dans le central vers les 64 ou 128 abonnés, il consomme pas 64 fois plus que chaque équipement unitaire. Et donc ça permet d'avoir un central optique qui consomme beaucoup moins. Gros défaut, il y a moins de débit. Forcément, parce que le truc, il essaye de parler à 128 interlocuteurs en même temps avec la même fibre. Il parle forcément 128 fois moins vite, au moins. Et ça crée d'autres difficultés derrière. Mais ça a un certain avantage économique en termes de consommation d'énergie. Ça présente quelques autres défauts à côté. Ça interdit par exemple les découpages complexes. C'est-à-dire que quand un arbre PON est construit pour raccrocher 64 abonnés sur une fibre optique, les 64 abonnés sont priés d'être chez le même opérateur. Et donc comment on passe d'un opérateur à l'autre, comment on mélange deux technos. C'est-à-dire comment est-ce qu'on mélange du PON version X avec du PON version Y vraiment totalement innovant, sans tout casser. Donc voilà, ça crée d'autres problèmes, qui sont pas forcément insurmontables, mais ça crée d'autres problèmes. Ça résout un problème de consommation d'énergie centralisée. Enfin, voilà. T'es toujours en technique. 6 d'un côté, une demi-douzaine de l'autre, faut choisir. Voilà.
Une petite question, est-ce qu'il existe un opérateur de transit associatif
Jitoyen.
Ok.
Alors, un Tier 1 associatif, il n'y en a pas. Ah, j'ai pas dit que Jitoyen était le seul. Hein. Jitoyen est un opérateur associatif. Jix aussi est un opérateur associatif. Enfin, il y en a d'autres. Il y en a. Des opérateurs associatifs, des transitaires associatifs, ça existe.
Tiens, Vinci a une bonne question.
Il est midi 15.
C'est pas une question, c'est un horloge parlant. C'est bien. Alors, à la question, est-ce qu'on va manger ? La réponse est oui.
Spayou avait dit qu'il fallait chercher des sandwichs entre midi 30 et 13h. Voilà, et moi je voulais aborder un autre point qui était, donc Internet étant un réseau international, où on est FDN dans les liens avec d'autres gens qui feraient un peu comme nous dans d'autres endroits.
Alors, il me manque Taziden. Voilà, Taziden n'est pas venu, tout est dépeuplé. On a monté, on est en train de monter, je crois qu'elle s'est montée enfin, la liste des, voilà, la liste de discussions où on essaye de regrouper des fournisseurs d'accès Internet associatifs du monde entier. Des gens de la fédération FDN, mais des gens d'ailleurs. On en a trouvé à différents endroits, j'ai pas les noms en tête. Moi j'ai trop le nez dans les guidons franco-français pour avoir le temps de suivre. Mais il y a une liste de discussions qui essaye de regrouper des initiatives des user-based Internet Service Provider. Donc y a, voilà, il y a une vraie... On essaye de... j'ai pas connaissance de structures internationales qui regroupent, ne serait-ce que de manière informelle. Donc on essaye de voir si ça peut se créer. Je sais pas ce que ça donnera, mais... On a quelques points de contact avec des FAI associatifs à différents endroits. Je sais que j'ai repéré au moins inberlin.de qui fournit de la DSL à Berlin, qui a l'air de ressembler assez à FDN pour ce que j'en ai vu. Maintenant, leur site web il est tout en germain et moi je parle pas la langue, donc faudrait que j'aille à Berlin leur parler en anglais. Il faudrait qu'on offre. Est-ce que le site de FDN a des bouts en anglais ? Non.
Oui, le nom, ça. Le nom,
si. Alors le nom, quand même, mais bon, qui est pas, il est dans un français moyen. La Fédé a un bout de son site qui est en anglais. FDN2 a une partie du site web qui est en anglais. En fait, la totalité du site web FDN2 est bilingue. Je crois que même dans les gestions, dans les systèmes de gestion des dons, il n'y a que les dons par prélèvement automatique que j'ai fait systématiquement en français. Tout le reste est en français et anglais. Donc, non, la fédération FDN est. Voilà, il y a une chance non nulle pour quelqu'un qui vienne du monde du dehors de s'en sortir avec un bout en anglais sur ffdn.org. Bon, ben. On lève la séance et on essaye d'aller acheter le manger au bon moment, c'est ça ?
J'ai faim.
Oui, mais c'était déjà comme ça au début. Je suis sûr qu'après manger, t'auras encore faim.
C'est-à-dire que Matt n'amène plus les chouquettes, alors du coup...
Bon. Pause, café, on enterre le vice-président et on reprend après. Il est midi 20, on essaye de se retrouver autour du café un peu avant 14h, parce qu'on reprend à 14h.